Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin est là-dessus. Hamelin le tire et contre. Oh, quel but!
Oh, quelle mise en échec!
Un échappé, Carpentier.
Vous l'avez fait, attention!
Un peu dans les lances! Et goal!
Charpentier avec le 10, contour de l'autre côté, le but!
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, épisode 3, on va y aller avec quelques nouvelles dans la Ligue. On va y aller avec nos deux invités ce soir de tête ferme, Alexandre Tremblay dans un premier temps, et ensuite Yann Joseph. Et après, on va y aller là, avec les matchs du week-end et les matchs à venir la semaine prochaine. Messieurs, comment ça va?
Top shape.
Ça va être yes. Bien. Je l'ai-tu popé à tête ferme?
Ouais, c'est ça. Tu commences à parler comme un gars du coin là.
Yes, sir. On pourrait peut-être saluer là, les gens là, dans le chat. Richard Pajot qui dit salut les boys. Félix Dallaire qui nous salue également. On pourrait peut-être y aller avec les nouvelles. Grosses nouvelles là, quand même. Cette semaine, Gabby Rock là, qui fait son retour signé là, avec Sorel, donc a joué même ses premiers matchs en fin de semaine.
Oui, ça a été une grosse nouvelle là, qui a fait beaucoup jaser la semaine passée. Donc Sorel qui a annoncé ça là, à leur pratique hebdomadaire mercredi passé, que Gabby Rock s'en venait. On a vu justement là, que il y avait du monde dans les commentaires, puis Laval aussi là, qui a une petite réaction par rapport à ça. D'après moi, c'est que je ne connais pas là, ce qui s'est passé, là, mais d'après moi, il devait négocier un peu avec les deux équipes, là, de ce que j'ai pu comprendre. Puis c'est ça, fait que c'est celles qui ont réussi à l'avoir, puis il a déjà fait sentir sa présence. Là. Il a joué les deux matchs. On a vu que justement, c'est pas un homme fort unidimensionnel. Il est capable de faire quelques chiffres par match aussi, puis d'apporter, on l'a vu, il a fait quelques mises en échec en fin de semaine aussi. Il a aussi eu son premier combat avec Hubert Poulin, qui était un peu aussi, on va en reparler plus tard de ce match-là, là, mais c'est un match que la première période, il n'y a rien pantoute qui allait pour Sorel. Là, fait que je pense que ça avait aidé un peu là, ça, parce que c'est pas mal la seule chose qui avait bien été dans cette période-là pour Sorel. Ça donnait un petit point positif, quelque chose à se rattacher là, dans la première période qui avait été catastrophique. Mais ouais, c'est une bonne signature. C'est bon aussi pour, je pense, la Ligue en général. Je prends un vendredi, Sorel s'en va jouer à Jonquière. D'après moi, ça va être quelque chose de quand même intéressant là, de voir Gabby Rock retourner à Jonquière après toutes ces années-là. D'après moi, les fans devraient être contents de le voir. Fait que, ouais, une bonne signature, là, je trouve, que les éperviers ont réussi à aller chercher.
Ouais, ben, non, non, mais c'est ça, tu sais, Dave, il a eu la chance de le voir. Moi, je ne l'ai pas eu encore la chance de le voir, mais tu sais, Gabby, j'ai eu la chance de jouer contre. Puis c'est un peu comme qu'on a eu Chris Cloutier la semaine passée, tu sais, c'est du monde qui font partie quand même de l'image de la Ligue nord-américaine. C'est des bâtisseurs de cette Ligue-là. Fait que, tu sais, pour moi, personnellement, je suis content de le revoir dans la Ligue. Ça va amener cette petite dimension-là. Puis comme tu dis, il est capable aussi de jouer son petit chiffre. Il est capable de venir prendre des chiffres quand c'est le temps. Tu sais, il amène cette présence-là. Fait que, tu sais, la Sorel qui a passé du début de l'année à aucun vraiment un tough. Tu sais, j'ai du respect pour Bourque, mais tu sais, on parle de heavyweight là, dans la catégorie des AML et tout ça. Tu sais, là, t'en as deux dans l'espace d'une fin de semaine. Lacker qui fait son retour. Mmh. Puis t'as Gabby. Fait que, tu sais, Sorel est bien anti pour faire une run avec ça aussi. Là, ça va les aider aussi.
Mmh. Oui, c'est ça. Puis ça va enlever de la pression justement sur d'autres joueurs que c'est peut-être pas nécessairement leur rôle comme Bourque ou Danny Potvin là, qui était appelé à tenir le fort niveau robustesse là, si jamais certains joueurs se faisaient bardasser. Là. Fait que, c'est une affaire aussi que Christian Deschênes a mentionné qu'il trouvait que l'équipe se faisait un peu bardasser plus qu'il aurait aimé depuis le début de l'année. Là. Fait que ça va les aider de ce bord-là.
Et du côté des pétroliers, Lucien Paquette là, qui est allé avec un communiqué pour donner quelques précisions.
Je vais assumer, on va assumer dans le fond ce que Chris Cloutier nous disait au dernier podcast, ça devait être Gabby Rock. On va s'entendre, je ne sais pas si vous vous souvenez de Chris qui avait dit il y a quelqu'un qui s'en vient dans les prochaines semaines, on a un tough qui va probablement arriver dans les prochains jours. J'ai l'impression que c'était Gabby Rock, là, soyons francs, je pense que c'est t'sais, ça fait un peu de sens aussi avec ce qui s'est passé. Et Lucien Paquette, Seb Chassonnet, qui a fait un communiqué cette semaine en même temps. Là.
Exactement. Donc, il voulait préciser là, que Gabi, tout le long des négociations, a été très transparent. L'équipe des pétroliers ne l'a pas laissé passer. C'est vraiment parce que Gabi, là, au final, voulait être avec ses amis aussi à Sorel. Donc, c'est ça qui est écrit dans le communiqué.
Ouais, ben tu sais, Sorel sont chanceux dans cette histoire-là, dans le sens que Gabi, c'est un gars de Joliette. Que tu prends le traversier, tu es rendu à Sorel. Là. Fait que, il est vraiment proche, il est plus proche pratiquement chez eux à Sorel qu'à Laval quasiment. Là. Vu que c'est surtout un gars de région aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que, je pense que Sorel a un peu joué de chance là-dedans, dans le sens que c'était un joueur qui était proche du coin. Là.
Mm-hmm. Yes. Donc, il y a aussi Will Breton là, qui a fait son retour avec le FM, le temps d'une fin de semaine, Tiff.
Ben, c'est ça, là, tu sais, nous autres, ça nous a amené une petite dimension, malgré le fait, on regardera pas le score, on va en parler plus tard, mais tu sais, Will, c'est un gars qui prend fierté à jouer pour le club de sa ville. C'est un petit gars qui amène de l'énergie. On va avoir la chance d'en parler dans pas long avec un de nos invités, mais il a parti de la game à l'aile à côté d'Alex Tremblay, notre invité. Ils se sont dit une couple d'affaires, ils se sont jasés, mais tu sais, c'est de la manière que Will joue. T'sais, il n'est pas gros pour le monde qui ne le connaisse pas, il n'est pas gros, mais il amène de l'énergie, il amène dans la chambre. C'est un gars qui, t'sais, il va parler une fois de temps en temps, pas souvent. C'est un gars qui est plus, il lead par exemple, même s'il ne fait pas longtemps qu'il est dans la ligue. C'est un gars qui amène de l'énergie, c'est un gars qui est partout sur la glace. Il est capable de se battre une fois de temps en temps. T'sais, il y a 2-3 ans, sa première année, il avait pogné Chris Cloutier à Saint-Jérôme. Ça nous a fait du bien de le revoir malgré le résultat de la partie. De ce que j'ai pu comprendre, Will devait, avec sa job, je pense qu'il retourne pour un petit 3 semaines avec sa job, mais après il revient, c'est terminé. Si je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il part 3 semaines, il revient après, puis il devrait être d'ici la fin de l'année avec nous, là, manquera plus aucun game. Mais on va s'en ennuyer encore pendant 3 semaines, mais c'est un petit gars qu'on était très content de voir dans la chambre. Puis comme je t'ai dit, c'est un gars qui joue avec ses tripes, puis il est fier d'être un gars de la Beauce, d'être un gars de Saint-Georges, puis à chaque fois qu'il met le chandail, pour lui, c'est incroyable, là, tu sais, je veux dire, le petit gars, il a joué Midget 3, il a joué Junior 2A dans le coin, puis il est revenu à la maison, puis on lui a donné une chance dans le camp d'entraînement, puis bang, fait sa place dans les séries, score un gros goal contre Rivière-du-Loup, là, une couple d'années quand on les avait sortis en 4, score en prolongation, puis... Fait que pour nous autres, c'est une pièce du puzzle. C'est sûr qu'en ce moment, à 2 et 5, le puzzle, on cherche comment le placer, mais il fait partie de la pièce du puzzle, là, Will Breton. Mm-hmm.
Puis pour revenir juste au sujet d'avant, Hugo Labossière qui dit « Première fois que je vois une équipe faire communiquer sur la signature d'un joueur par une autre équipe, la pression des fans était forte. » Puis je pense que c'est tout en l'honneur là, des pétroliers de quand même rassurer les fans puis dire qu'ils essaient de faire tout leur possible pour mettre une bonne équipe là, et l'équipe que les fans veulent avoir sur la glace.
Oui. Non, c'est correct. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait le droit. Puis probablement que, tu sais, j'ai pas lu les réseaux sociaux, mais il y a probablement du monde qui jasait par rapport à ça, qui devait s'attendre. Tu sais, Gabi Rock avait joué à Laval. Là. Il a déjà pas joué à Laval, mais tu sais, il a joué à Jonquière. C'est un petit gars qui. Je pense qu'il a déjà joué à Laval. Il a déjà joué à Laval dernière année. Fait que, tu sais, le monde voulait le voir. Puis c'est correct. Lucien a juste fait sa job en disant, tu sais, en rassurant les partisans.
Puis, il y a une invitation dans le chat, Dave Hamel, qui dit « C'est une garantie de combat, mon Gabi, 19 novembre. » Donc, c'est un rendez-vous.
That's it, Hammer. Yes, mon Hammer.
Les invitations. Directement, c'est bon, ça.
La game le 19 est à Sorel. Je pense pas que c'est les fans de Sorel qui vont se plaindre de ça.
C'est François Poliquin qui dit Dave Hamel a déjà regardé le calendrier. Donc, c'est très bon. Quelqu'un qui dit explique-la. Dave Hamel qui dit explique-la à propos de.
C'est ça, je ne sais pas trop. Tu me le diras, mon Hammer, écris-moi en privé, je ne la comprends pas, explique-la, je ne la, la comprends pas.
Alors, je pense qu'il y a un commentaire qui a passé de quelqu'un qui disait que des gars comme Amès avaient peut-être moins sa place que, qu'avant, mais tu l'as souvent expliqué, anyway, Tiff, c'est quoi l'importance de Hammer dans l'équipe, là, fait que...
Au risque de ça va au-delà. Je ne retournerai pas dans ces affaires-là, mais au-delà de qu'est-ce que Hammer amène sur la glace, c'est ce que ces gars-là amènent dans la chambre, que ce soit Hammer, que ce soit, je suis pas dans la chambre à Sorel, mais que ce soit des Lakers, que ce soit n'importe qui dans cette ligue-là, c'est qu'est-ce qu'ils amènent à l'extérieur de juste l'hockey. C'est des gars que tu aimes avoir dans ta chambre, c'est des gars qui aiment ça être là, c'est des passionnés, c'est des gars qui aiment l'hockey en partant. Fait que, moi, là, jamais je vais rentrer dans le débat, est-ce que lui mérite encore d'être là, ces gars-là méritent d'être là, comme tous les autres joueurs méritent d'être là.
Mm-hmm. Yes, il y a eu quelques signatures, là, les 3L, qui ont ajouté de la profondeur défensive, Elliott Saint-Pierre, l'arrière, il a joué en fin de semaine.
Oui, ben, il a été scratché, il a fait le warm-up vendredi, il a joué samedi, puis tu sais, c'est sûr que c'est un jeune défenseur, fait que, il a de l'expérience à prendre. Par contre, il a quand même fait sentir sa présence, il a dérangé, il a frappé Bouvet-Morissette, puis ça a failli se pogner. En fait, Elliott Saint-Pierre, il a jeté des gants, mais Bouvet les a pas jetés. Fait que, tu sais, ça a brassé un petit peu. Puis il a aussi fait prendre deux pénalités à Étienne Brodeur, parce que un moment donné, ils se sont comme rentrés dedans, puis il a levé un peu le coude, puis Brodeur, je pense qu'il a pas aimé ça, là. Fait que, il a eu une petite pénalité avec ça. Fait que, tu sais, c'est quand même un joueur que je pense qu'il savait que c'était son premier game. C'était sa première game. Fait qu'il a essayé de montrer de quoi à son équipe et à son coach, là, qui était pas là pour être un passager. Fait que d'après moi, c'est quelque chose qui a dû être apprécié. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est un bon pick-up. Puis il y a aussi samedi, Charles-Éric Légaré, qui est un nouveau joueur aussi de Rivière-du-Loup, qui avait signé, là, qui faisait son premier match. Quand même un joueur qui a déjà une saison d'un point par match dans les juniors majeurs du Québec. C'est un joueur qui a un petit gabarit. Je sais que Rivière-du-Loup en ont c'est déjà quelques-uns. Mais il y a un potentiel offensif de ce côté-là. Là, ils l'ont essayé pas mal avec... Pendant deux périodes de temps, il jouait avec Villemaire et Tourigny. Là, fait que je pense que c'est un joueur que Éric Haillé pense qu'il pourrait produire offensivement. Là, fait que, il y a eu un point aussi, il y a une passe. D'autres ajouts là, du côté de Rivière-du-Loup qui, comme un peu Tiff disait tantôt, qui sont en train de regarder un peu comment placer les pièces de leur puzzle là-bas aussi. Là. Mais, ouais, donc, la bonne profondeur quand même.
Puis du côté aussi des 3L, il y a le retour de Raphaël Bastille.
Vas-y,
Dave.
Ouais, ben, tu sais, il a mieux joué, je pense, là. Deux games à Jonquière, deux ou trois games à Jonquière depuis le début de l'année. Ça aussi, c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui va être là pour son attaque. Mais je pense que qu'est-ce qui est le fun du côté de Rivière-du-Loup, c'est que c'est un joueur de la région que malheureusement, justement, il avait dû le laisser partir, puis c'est Jonquière qui ont décidé de lui laisser une chance. Mais là, au moins, pour eux, ils vont être capables de rapatrier. Fait que, tu sais, on est une ligue qui est régionale souvent, que les équipes essaient tout le temps d'avoir le plus possible des joueurs de la place. Fait que, je pense que c'est bon pour les 3L d'avoir réussi à rapatrier un joueur de la place.
Ben, je pense aussi, c'est probablement aussi, là, peut-être que si Bob nous écoute, je ne sais pas si Bob ne nous écoute pas, mais pour dans l'échange aussi, on n'en avait pas parlé avant le show, mais il y a eu un échange cette semaine. Zach Boursois qui est parti de Jonquière, qui est allé à Rivière-du-Loup contre Sacha Roy et Bernier. Probablement que rendu là, vu que tu amenais deux joueurs à Jonquière, peut-être je me trompe, mais à cause de la liste, probablement qu'il fallait qu'il en laisse partir un. Est-ce que ça a le rapport à ça? Il fallait qu'il libère un joueur pour avoir le nombre maximum. Fait qu'ils ont laissé Bassé, puis Rivière-du-Loup, comme tu expliques, il était déjà là avant. Fait que il retournerait là. C'est peut-être que Bob pourrait nous expliquer, mais c'est peut-être ça aussi qui est arrivé un peu. Des fois, tu fais un échange, mais en même temps, il faut que tu libères un joueur. T'sais, c'est un échange de deux joueurs contre un. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait du monde ta liste de protection de joueurs doit être un maximum. Fait que peut-être que Jonquière l'a dépassé. Alors, ils ont laissé aller probablement Bastille. Et puis, je suis content pour lui. T'sais, c'est un petit gars qui, je l'avais dit dans un des shows, c'est un gars qui, dans le camp d'entraînement, m'avait beaucoup impressionné. M'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Puis, tu sais, il y a un bon coup de patin. Fait que, tu sais, espérant qu'il est capable de se tailler une place à Rivière-du-Loup puis jouer CTD pour lui. Tu sais, j'y souhaite vraiment, personnellement.
Good. Pour votre information, Alex Tremblay est dans la salle d'attente. On va y aller dans quelques instants. Je voulais juste qu'on parle aussi des étoiles du mois, là. Donc, Maxime Saint-Cyr, première étoile du mois, 11 buts, 6 passes. Étienne Marcoux, 3 victoires. à 2 de moyenne, 919 d'efficacité. Dominique Graham, 4 victoires, 269 et 921 d'efficacité. Donc, un gros mois, en tout cas, pour Maxime Saint-Cyr. Malgré que son équipe là, est dernier au classement, c'est quand même un gars qui amène beaucoup d'attaque et que sa présence se fait ressentir.
Oui, ben tu sais, à Rivière-du-Loup, le problème en ce moment, c'est définitivement pas l'attaque.
Ouais, on va en revenir là, tantôt.
Non, c'est ça. Un match de football. On va se le dire. Un touché pour un placement contre deux placements. C'est un peu pareil. Comme notre ami, puis tu sais, je manque pas de respect à personne, mais tu sais, comme notre ami Fern des Boys dirait, ce n'était pas un duel de Cerbère. On va se le dire, les Cerbères ont. C'est plate des fois pour les gardiens de but, c'est plate des games de même parce que c'est souvent laissé le free fall, le haut, c'est des deux contre un par-dessus des breakaways. Puis à un moment donné, les goalers sont laissés à eux autres même, puis c'est pas le fun non plus pour personne. Là, c'est bien le fun pour les gars qui jouent en offensive, ramasser ton petit point net, mais c'est pas le fun pour les gardiens de but dans ces situations-là. Là.
Ouais, puis les quatre ont joué, hein, c'est rare, ça arrive.
Non, c'est ça. Anyway, on fera pas plus attendre Alex. Là. J'avais dit 10-15 minutes, Alex. Fait que...
Let's go. On y va avec notre invité, Alex Tremblay.
Salut, Alex.
Hey, oui, ça va?
Salut. Ouais, ça va.
Yes, yes. Donc,
Vas-y. Vas-y, je te laisse. Moi, en ce moment, j'ai texté Alex, j'ai texté quelqu'un. J'espère vraiment qu'il va me répondre. J'aimerais savoir une anecdote sur toi, mais je ne sais pas s'il va me répondre. Il a l'air occupé. Un ancien que tu as gagné à Coupe Memorial avec, je te donne un indice, il échappait à Coupe.
Tabarnak. Oh, excuse, ça commence mal, hein?
Ben non, t'as le droit, c'est notre podcast.
On a le droit.
On l'appelait Bob. Moi, je l'appelais Bob dans ce temps-là. Quand je suis arrivé à Rimouski, c'est avec lui que je me tenais le plus. Puis...
Il me répond pas en ce moment.
J'ai presque pas d'histoire qu'il va raconter, mais on verra.
Pour le monde qui ne savent pas, on parle de Junior Larivière. Là, Junior Larivière qui avait tapé la coupe quand ils ont gagné la coupe à la Coupe Memorial. Là, ça a fait quand même le tour d'RDS. Fait que j'ai texté Junior et il ne me répond pas en ce moment.
Le plus drôle, c'est que tout le monde a ramassé la coupe, on est tous passés à côté et on l'a laissé là. Ça, quand tu as 20 chums comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis dans la vie.
Ça commence bien. Alex, est-ce que tu peux nous parler là, de ton début de saison là, jusqu'ici avec Thetford?
Oui, ben, tu veux dire personnel ou.
Ouais, ben, personnel. Après, on peut parler de l'équipe aussi. Hein.
Ouais, ça va. Je veux dire, c'est un petit peu plus long de tomber dans le rythme à 42 ans qu'à 21, mais non, ça va bien. Je veux dire, on a tellement de profondeur que peu importe avec qui qu'on joue, ça fonctionne bien. Puis moi, avec Max Lecour, ça fait depuis que je suis revenu de Suisse, 6-7 ans, à chaque fois que moi et Max, on est ensemble, ça a toujours bien fonctionné. Donc, c'est un petit peu, comme je pourrais dire, un combo sûr, comme Bobby les appelle. Là. Fait que non, je suis satisfait jusqu'à date.
Puis le côté équipe, vous avez eu un bon début de saison. Là. On regarde l'affiche, pareil, vous êtes deuxième, 5-2. Vous avez eu un petit week-end. Je me souviens, Bobby avait fait une entrevue. Il y a une game que vous aviez un peu mal joué. Là. Je ne me souviens pas de la fin de semaine. Là, deux fins de semaine, il n'avait pas été trop content. Mais si tu regardes ça, c'est game 5-2. Vous êtes deuxième au classement. T'sais, côté personnel, équipe, là, comment tu vois ça depuis le début de la saison?
Non, là, on a une bonne fiche, ça c'est sûr. Ce qui est un petit peu décevant, c'est comment on joue à la maison. On n'a pas une défaite sur la route, puis nos deux défaites, c'était à la maison, justement, contre Sorel et Rivière-du-Loup. Des matchs serrés, des matchs qu'on essaye peut-être d'être un petit peu trop flashy, comme on dit, plutôt que la jouer vraiment avec notre identité. Puis les deux soirs, on s'est un petit peu endormi face à des équipes qui nous attendaient, puis qui attendaient juste les revirements, puis que, par notre faute, on crée ces revirements-là, puis on se fait avoir en bout de ligne, là, souvent en fin de match, on perd de l'arrière, on tire de l'arrière, puis après ça, on n'est pas capable d'en revenir. Mais en général, sinon, là, pour vrai, une fiche de 5-2 après 7 matchs, je pense que c'est très bon. On a une belle gang de gars, on a une chimie qui est incroyable. Je veux dire, on n'a vraiment pas à se plaindre la tête faite dans une belle équipe cette année. Beaucoup de profondeur. Mm-hmm.
Donc, le côté... Vas-y, Seb.
Il y avait une question dans le chat, là, Pierre Fontaine, qui disait... Alex, comment as-tu trouvé ta game à Saint-Georges en fin de semaine? Puis, on a un gars, justement, là.
Moi, je l'ai dit, moi, je représente la Ligue nord-américaine à soir. Je m'emmène pas, là, de qu'est-ce que c'est correct.
Ben, ça dépend. C'est quoi la question par rapport à ma game à moi ou ma game à tout le monde? Tu sais, la
ben, penses-tu... Ben moi, ben je vais t'en poser une question. Après le match, dans le fond, là, à Saint-Georges, le week-end dernier, vous allez les revoir la fin de semaine prochaine. Est-ce que tu penses là, que Saint-Georges va rebondir contre vous?
Ben, c'est sûr. Je veux dire, Saint-Georges, c'est une équipe qui a du caractère. Déjà qu'il y a une rivalité avec nous autres, Tetford, à chaque année, c'est comme ça. Puis, tu sais, Yannick pourrait le dire aussi, c'est chaque soir, on peut arriver là-bas, on peut gagner un match 6-2, on peut en perdre un autre 5-1. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais encore une fois, peu importe contre qui tu joues, que ce soit Saint-Georges ou n'importe qui, dans cette ligue-là, il y a tellement de parité, il n'y a pas de mauvaise équipe. Fait que si un soir, tu ne te présentes pas, tu ne gagneras pas. Ça s'équivaut pour nous, autant que pour Saint-Georges et les quatre autres équipes. Hein.
J'ai une question à te demander, Alex. Il y a une jeune recrue là, qui joue avec vous autres, le jeune Goulet. Je pense qu'il il joue bien. Je l'ai regardé en fin de semaine. C'est un gros gabarit. Il joue en plus imposant. Il n'a pas peur. Il s'est fait bardasser vendredi. Il a répondu à l'appel. Il n'avait pas peur d'être là. Un score des gros goals. T'sais, comment tu vois ce jeune-là, l'adaptation qu'il a pris dans la Ligue nord-américaine déjà après cette partie?
Pas très bien, je veux dire, on l'a vu tout de suite à la classique Bobby Sonnette, vous allez me dire qu'il n'y avait pas de contact, mais c'est vraiment facile de voir un joueur qui a des atouts principaux comme ça. C'est un gars qui a de la vitesse incroyable. Avoir une vitesse, quand tu es parti, une vitesse d'un croiseur, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont, mais avoir les 3-4 premiers coups de patin qui distancent tout le monde comme lui, le power, le toy qu'on dit, c'est juste incroyable. C'est un patineur hyper puissant. En plus, il a des mains. Fait que souvent, tu ne sais pas s'il va te déborder, s'il va te la poser entre les patins, il va te couper au centre, tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Il arrive en zone offensive, il est tellement fort sur le puck, il perd le puck, il est tout le temps, il revient, il est comme un boomerang, il retourne. Fait qu'il trouve le moyen de se créer des occasions de marquer par lui-même tout seul. Honnêtement, il est impressionnant. C'est un gars qui a du chien, comme tu dis.
C'est
impressionné, c'est un gars qui a des grosses jambes, c'est un gars qui est fort physiquement. C'est pas un gars qui va être intimidable.
Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, Mathieu Landry, qui dit aussi, puis je m'en allais sur l'autre question, il y a le jeune Larivière aussi, là, qui, tu sais, c'est un gros bonhomme imposant, tu sais, il joue bien, tu sais, c'est un gars aussi, là, avec le futur, il va s'en venir dans la ligue, tu sais, il va prendre encore plus d'assurance en lui, tu sais, c'est sûr qu'on en remarque un peu plus Goulet, là, tu sais, il a fait un hat-trick dernièrement, score des goals, mais Larivière aussi, d'en prendre la place, bon patineur, lui aussi, là, il a l'air de s'accommoder à la ligue de la bonne manière aussi, là.
Oui, exact. Tu sais, Goulet va être beaucoup plus, impressionnant, flashy, va être beaucoup plus un gars qui va faire des highlights, des efforts individuels, beaucoup plus d'offensive, si je pourrais dire. Par contre, Larivière, tu sais, à Classique, on voyait déjà que c'était un bon joueur de hockey. Mais quand on est arrivé justement dans le début de saison, bien, match en concours avec la mise en échec, tout ça, c'est un gars impressionnant. Il est fort comme un cheval. Puis, en plus, quand il arrive avec le puck, il va jamais du puck. Max de Cour, on a joué avec.
On est en train de perdre Alex, je pense,
ouais.
Les boys.
Ouais, c'est ça, Alex. On va voir si ça peut se replacer parce qu'on a l'air de le perdre. Je n'étais pas sûr si c'était moi qui avais de la misère. Là.
Ouais. Je pense qu'il est en train de replacer ses affaires, peut-être.
C'est correct?
Ça gèle un peu, ça coupe, Alex.
Là, je t'entends.
Ouais, c'est toi qui coupais, mais là, ça a l'air d'être. Je sais pas, vas-y donc, parle, Alex, voir. Ouais, c'est ça. Veux-tu juste quitter Alex puis revenir, juste essayer pour voir? J'ai l'impression parce que ça coupe pas mal en ce moment.
En fait, je vais faire l'action.
C'est bon. Puis il y a une autre question quand Alex va revenir. Il y a une question, je pense, qu'on peut amener. Là, partez pas le monde. Là, des fois, c'est ça la beauté des podcasts, hein, la beauté de la technologie de nos jours, des fois. Mais il y a une question aussi que je lui ai demandé, le fameux, la fameuse échange, un gars comme Medley. Tu perds quand même quelqu'un qui a des grosses chaussures dans un locker room. Tu sais, j'avais hâte d'y demander, j'ai hâte qu'il revienne. C'est une des questions aussi que je lui ai demandé par rapport à Medley. Tu sais, le petit Poudrier, qui est un gars local, je crois, qui est venu, qui joue très bien en ce moment. Mais tu as quand même, tu sais, pour perdre Medley, il faut que tu reçoives quelque chose en retour. Tu as eu Poudrier, qui est un très bon joueur, mais la pointure d'un Matthew Medley. T'sais. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'Alex aussi a à dire sur ça. La beauté. La beauté des...
Ouais,
le retour plus... dans la salle d'attente.
Ouais. Yes. En plus, c'est le capitaine aussi à, là-bas, Alex. Hein, fait que peut-être que je ne sais pas si c'est un genre de capitaine qui est plus vocal ou qui lead par l'exemple, mais peut-être que justement là, quand tu perds un gars comme Medley, parce que Medley, c'était comme.
Bon, de retour, moi, Alex.
Bien sûr. Bon. C'était peut-être ma batterie qui était sur le bord de me lâcher finalement.
OK, OK. Puis on s'en allait aussi dans. Tu sais, on en parlait pendant que tu étais parti, puis tu revenais, Alex. Là, c'est une question que je me dois de poser. Puis, tu sais, on connaît tout le vécu et qu'est-ce que ce gars-là amène dans une chambre, Matthew Medley. Le départ de Matthew Medley, tu sais, c'est quand même. Tu sais, vous avez eu le Poudrier qui est un très bon joueur. Tu sais, pour donner Medley, il fallait que tu aies quelque chose en retour. Puis Poudrier joue très bien depuis qu'il est arrivé. Il avait scoré sa première game. Tu sais, vendredi, je l'ai trouvé très bon. Mais tu sais, perdre un Matthew Medley dans une chambre, c'est comment, Alex? Et oui, il était capitaine, t'es rendu capitaine aujourd'hui, mais tu sais, c'est quoi perdre un Matthew Medley dans une chambre?
Là? Honnêtement, c'est un mangement. Non, je me niaise les boys. J'ai dit mon partir à rire, là, pas qu'il riait, j'avais non, blague à part, c'est sûr que tu sais, Medley, c'est un gars qui avait de l'expérience. On sait tous que c'est un excellent défenseur aussi, là, un des tops dans la ligue. Mais tu sais, en bout de ligne, il y a des circonstances qui faisaient qu'il pouvait plus déplacer à Thetford. Je ne les connais pas toutes. Je pense que c'est des raisons qui sont valables. Puis en bout de ligne, c'était vraiment là, de l'accommoder pour les services qu'il a rendus à Thetford. Mais oui, pour nous autres, c'est un grand leader. C'est un gars qui prêchait par l'exemple. Puis tu sais, au début de l'avoir envoyé contre Poudrier, on savait que Poudrier, c'était un très bon joueur. Mais honnêtement, depuis qu'il est arrivé, Poudrier, jusqu'à maintenant, il m'impressionne. Il amène de l'offensive, il est rapide. C'est un autre joueur qui est quick dans les espaces restreints. Il amène énormément pour l'équipe. Puis il est aussi bon défensivement. Donc, c'est un joueur qui est complet. C'est sûr que c'est une grosse perte, mais en même temps, sur le coup, c'est sûr que tout le monde se posait la question, incluant Bobby. On s'en était parlé un petit peu avant qu'il fasse le move, mais qu'il puisse rentrer par la suite là, Guillaume Lépine dans le line-up, c'est venu vraiment compenser tout ce qu'il y a avec Lépine. Il est encore en rodage, mais c'est un gars pauvre, c'est un gars que ça va être fatigant de jouer contre. Là, ça commence déjà à être fatigant de jouer contre, mais dans quelques semaines, j'ose pas là, entrevoir ça va être quoi pour les autres équipes. Là.
Non, puis je vais te le dire, vendredi, il a fini 2-3 mises en échec avec ses fesses. Là, c'est un 2 contre 1. À un moment donné, le gars pensait avoir une petite tasseur facile, puis il s'est fait pincer. Puis j'ai joué avec Guillaume, c'est un gars qui va être très hard to play against. Là, fait que, si c'était sa première game, mais il va pogner le beat à un moment donné, puis oui, il va être très dur à jouer contre.
100% d'accord. Puis Tonto va venir aussi, je suis pas mal sûr, Yann.
Hey, patine pas assez vite pour ça, je le vois arriver. Je le vois arriver, je suis trop lent.
Ouais, mais justement, ils sont plus faciles à pogner, ceux-là. Malgré que t'as des bons déplacements latéraux, t'es correct.
Il y a François Bellefleur dans le chat que je pense que c'est un petit inside, là, mais il dit j'aimerais savoir si Alex est content de ne plus venir chercher l'enveloppe en sac à dos.
Ben, je pense que content.
As-tu une histoire qui va avec ça?
Ou... une enveloppe pleine qu'une enveloppe vide, hein, boy? Poser la question, c'est
y répondre. Hein? Hey, Alex, je vais te poser une question, puis là, je ne veux pas la ramener ton âge, c'est correct, mais moi, ça me fascine encore. Tu en as parlé au début. À 42 ans, 2 ans de break, Alex Tremblay a fait quoi pendant 2 ans pour dire hey, va en jouer encore une? Puis, j'ai Kevin Cloutier avec moi, Piper, qui va avoir 41 ans bientôt. Puis, tu sais, Kevin, on en parlait pendant le COVID, puis tu sais, ça tenait en forme, et tu sais, t'as pas le choix à un moment donné, t'sais, t'as pas, comme tu dis, t'as pas 20 ans, mais tu sais, Alex Tremblay a fait quoi pendant 2 ans? Tu sais, man, ça me tente encore de jouer, j'ai encore la drive, mais il faut que je me garde en forme pareil, tu sais.
Ah, exact. Mais honnêtement, c'est ce que je dis toujours à n'importe qui, puis mes chums proches le savent aussi, là. Une de mes plus grandes qualités depuis que je joue au hockey, ça a toujours été l'entraînement. Je suis un gars, c'est toujours entraîné hyper fort. Puis depuis que j'ai arrêté, j'ai toujours continué à m'entraîner de la même façon que quand je jouais pro. Fait que tu sais, en bout de ligne, c'est ce qui fait la différence. Est-ce que j'ai ralenti? Oui, énormément, dans le sens que T'sais, des fois, le monde va me dire encore, tu patines encore, ouais, mais. T'sais, je veux dire, avant, j'avais 2-3 vitesses. À ce temps, je n'ai juste une. Donc, je me dis, si le défenseur est aimé, si moi, je suis dans la merde, comme on peut dire. Mais, avant, c'était pas comme ça, mais ça reste la réalité. Sauf que pendant le COVID, pour vrai, à un moment donné, il y avait le confinement. Moi, je m'étais équipé de gym dans mon garage. On était 2-3 gars, là, toujours les mêmes, qui s'entraînaient ensemble. Fait qu'on était. Je me suis vraiment gardé en forme. Je m'étais toujours dit, si j'arrête un an, je ne pourrais pas recommencer. Tu sais, un peu comme tout le monde. Mm-hmm. Fait que là, ça a été la réalité de tout le monde. Puis, je me suis posé la question à savoir au début comment ça va se passer. J'ai eu ma réponse, honnêtement, en même pas 2 jours. Aussitôt qu'on a arrêté d'insérer tout, ça a commencé à me manquer les fins de semaine à la maison. J'avais hâte de recommencer à jouer. J'étais un gars qui va à l'aréna. Puis que, tu sais, je le fais pas pour l'argent, là. Je vais à l'aréna, j'y vais parce que j'aime ça, je vais au hockey, j'aime la game. Puis ça va être niaiseux, qu'est-ce que je vais te dire. Mais tu sais, le monde, des fois, me disait, des fois, 42, si tu te pognes encore, des fois, t'es un mongol. C'est comme, j'ai la game en moi, le jour que je vais embarquer sur la glace, et que mon identité va changer, ben, je vais arrêter. Tu sais, là, j'ai le goût d'y aller. Si j'ai un coéquipier à défendre, je vais le faire, je m'attends de la même chose d'eux autres. Fait que, tu sais, je suis un compétiteur en dedans de moi. Cette flamme-là, je l'ai encore. Puis, t'es 11 longtemps, je vais l'avoir, je vais jouer. Puis, le jour qu'elle va commencer à s'éteindre un petit peu par petit peu, ben, je vais arrêter. C'est aussi simple que ça.
Moi, la petite dernière question que j'ai, puis j'allais la poser, Mathieu Landry qui la pose, si ça peut te demander, Alex, dans la vie de tous les jours, Alex, dans une semaine, tu sais, t'as le semi-pro, mais qu'est-ce que tu fais à part ça de ta semaine? Une semaine ressemble à quoi pour Alexandre Tremblay? Ouais.
C'est simple. Ben moi, je travaille autonome. Dans le fond, j'ai une spécialisation qui s'appelle Active Release Technique, tout ce qui est blessures musculaires et nerveuses. Donc, je suis à mon compte. Donc, j'ai autant des clients l'été, des athlètes qui jouent junior majeur, autant du monde qui des chums qui jouent en Suisse, autant la mère d'un chum ou quelqu'un que je ne connais pas, dont un médecin qui me réfère. Donc, des problèmes de dos, des problèmes de cou, tout ce qui vient avec. Donc, en fait, je suis thérapeute. Donc, c'est moi qui fais ma propre horaire. Puis là, depuis cette année, je coach aussi là. Je coach à Cardinal-Roy dans un programme scolaire. C'est Philippe Tremblay qui est en charge de ce programme-là. J'avais joué avec à l'UQTR, donc c'est un très bon chum. Donc, depuis cette année, là, je coach aussi tous les après-midi là, au niveau scolaire.
En passant, Junior qui fait dire « Ça va, Bob? » Il vient d'écrire dans il dit « Ça va, Bob?
» Bon numéro aussi, c'est bon.
Merci, Alex. Peut-être en terminant, il y a ton coéquipier, Yann Joseph, qui va suivre en entrevue. Comment qui, Yann Joseph? As-tu quelque chose à dire sur lui?
J'ai-tu le droit de dire la
même chose? Il t'entend, il est dans la salle d'attente, en plus.
Je peux-tu le définir pareil comme Medlan Jones?
Vas-y.
Lui, je dirais pas que c'est pas vrai, ça serait encore plus drôle. Non, d'accord. Yann, moi, ça fait longtemps que je connais Yann. J'ai joué avec Junior à Shawinigan pendant 3 ans et demi. Il jouait souvent sur notre ligne aussi, sur le même trio. Fait que, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis c'est drôle parce que autant dans les dernières années, c'est à la glace. À chaque fois qu'on jouait contre, je laissais mourir. Je vais tout le temps me pogner avec parce qu'il m'énervait. Mais en même temps, je me dis que ceux qui m'énervent, ceux qui me disent c'est à la glace, je les énerve parce qu'il y a quelque chose que je fais de bien. Mais c'est un gars qui est vraiment cool. C'est un gars qui amène de la vie dans un vestiaire. Ça en a un autre vieux de la vieille aussi que. J'aurais aimé ça que je sois plus vieux que moi pour dire que je n'étais pas le doyen, mais si on est correct, quand Slide du frein, il est là, c'est pas moi. Fait que ma joke fétiche est toujours qu'à trois, quand on est là, on a environ 132 ans. Fait que ça, c'est pas drôle. C'est quand même pas drôle, là, mais c'est la réalité pareille.
Yes.
C'est bon.
Merci Alex. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour ça. Merci.
Moi, n'importe quand, quand j'avais besoin, lâchez-moi un texto, ça me fait plaisir.
Merci Alex.
Bonne saison.
Ciao.
Ciao, ciao. Yes. Très intéressant.
C'est un gars, il n'a pas parlé de ça, là, mais ce gars-là, là, partout ce qu'il a passé, il a toujours gagné. Je dis, il a gagné CIS, il a gagné Memorial, il a gagné à même la President. Après ça, il a gagné CIS. Après ça, il a gagné en Swiss B, je pense, 3 ou 4 ans de suite. Je pense qu'il a gagné comme 5 championnats de suite. Là. Comme si ça le suivait. Puis j'en oublie peut-être dans tout ça aussi, mais c'est un gars, il l'a expliqué un peu, juste pour avoir joué contre depuis ça fait 7 ans qu'il est dans la ligue. Là. Ça fait 5 ans que je joue contre, c'est un warrior. C'est un gars qui va à la guerre, puis il l'a dit, il y a une manière de jouer, puis C'est impressionnant de le voir jouer. Moi, tu sais, des gars comme on voit Yann Joseph, là, que ça fait quasiment 17 ans qu'il est dans la ligue. Tu sais, des gars de 40, 41 ans, 42 ans, des Piper qui jouent encore à un haut niveau puis de la même manière. Moi, ça me fascine. C'est... Puis j'approche, là, j'ai 37, là, je m'en vais là bien vite. Là. Mais ça me fascine pas à peu près.
On va pouvoir poser aussi ce genre de questions-là à notre prochain invité, Yann Joseph.
Yes!
Salut Yann, hey, ça Yann. Va?
Salut, ça va bien, ça?
Hey, excuse-nous pour la photo de Jonquière. Tu patines trop vite. Tu patines trop vite encore, Yann, à 40 ans, puis ils n'ont pas le temps de prendre une photo de toi avec un chandail de tête verte. C'est ça l'affaire, Yann.
Mais le pain, c'est ça, j'en ai pas trouvé.
Hey Yann, c'est ça qu'on disait, 17 ou 16? Il y a une année, je pense, ça fait 17, 16 Ligues nord-américaines. Il y a eu une année, je pense, tu as joué la Ligue, elle s'appelait pas Ligue nord-américaine. Là,
J'ai commencé à 23, mais j'ai eu une année que j'avais pris une année sabbatique complète que j'avais pas joué. Une autre, fait que dans le fond, elle n'a pas été jouée. Puis là, les deux années que ce sont. Ben, une année et demie, dans le fond, qui n'a pas été jouée. Là. J'y compte plus vraiment, mais ça fait longtemps.
Qu'est-ce qui drive encore Yann Joseph à 40 ans, après 16-17 ans dans la Ligue, de dire j'ai encore le goût de jouer, man. J'ai encore le goût de jouer.
C'est la passion, là. C'est la passion parce que. J'avais dit à ma femme que le COVID avait eu le dessus de ma retraite. Là. Je dis, bon, babe, le COVID, il n'y a personne qui peut me faire prendre ma retraite. C'est le COVID qui a fait prendre ma retraite. Puis comme de fait, Bobby m'a appelé cet été. J'ai dit, ah, laisse-moi penser à ça. Mais j'ai joué un peu tout l'été. J'aime ça jouer au hockey. T'sais, j'aime ça jouer au hockey. Puis j'ai réalisé que j'avais encore la passion, le goût de jouer. Fait que Bobby m'a proposé de quoi qui est intéressant sur aussi l'horaire qu'on pouvait peut-être accommoder un petit peu par si à cause que j'ai une garde partagée, famille, business, etc. Fait que ça m'a plu. Je n'ai parlé à ma femme, puis elle dit, gars, elle dit, t'es le seul qui t'est cru que tu prenais ta retraite, là. Fait que elle dit, moi, je te croyais pas. Fait que ça a donné ça. Fait que c'est la passion de, je dirais, de la game quand elle devient intense, surtout quand ça devient comme en série. Là, c'est ça qui me drive le plus. Être avec les boys, tu sais, dans la van, la fameuse van, pour se rendre à l'aréna, être dans la chambre, l'après-game, victoire ou défaite, tu sais, tout ça ensemble fait que c'est ça qui me fait vibrer, puis c'est encore pour ça que je joue au hockey.
Justement, dans le chat, Yann, il y a Martine Vaillard, Bisson, que tu connais bien, qui dit « drive it by passion ».
Yes. Martine, voilà. C'est ceux qui ne connaissent pas, c'est une boxeuse professionnelle que j'entraîne depuis longue date, puis... Mais elle aussi, justement, on se connecte bien en tant que coach athlète parce que c'est une passionnée, puis c'est pour ça qu'elle fait encore de la boxe. Parce que tu dis, de la boxe, tu manges des tapes sur la tête là, à tous les jours de ta vie, c'est un petit peu ça, mais il faut que tu sois passionné.
Yes.
J'ai une question, Yann, puis tu es bien placé, on l'a souvent posé, je l'ai posé à Kevin Cloutier, qui a joué des années aussi. Là, Kevin, je pense qu'il est rendu à 16 ans dans la Ligue, mais... l'évolution de la Ligue après 16 ans. Yann est rentré il y a 16 ans dans la Ligue nord-américaine qu'elle était à aujourd'hui. T'sais. Comment tu as vu toute cette évolution-là? Est-ce que, je vais te poser la question, est-ce que tu aurais joué 16 ans comme la vieille Ligue nord-américaine, t'aurais-tu fait tes 16 ans au complet?
Je me souviens qu'il y avait des games, puis il y avait des games que j'avais peur. Mais il ne fallait pas que je le montre que j'avais peur. Fait que là, tu jouais comme un niveau d'adrénaline élevé qui faisait que j'étais capable de performer. Aujourd'hui, tu sais, mettons, c'est quand même un autre game. Je me dis, tu sais, il va peut-être arriver de quoi, mais en réalité, ce sera pas si grave que ce que j'ai vu auparavant. Ça va être beaucoup moins physique, beaucoup moins dangereux. C'est sûr que je dirais que la Ligue, à l'époque, quand j'ai commencé, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, tout le monde qui a une caméra accessible, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se passer ou qui auraient été beaucoup plus punies ou à la limite bannies complètement. Le plus gros changement, c'est la vitesse, je te dirais, dans les dernières années. Là, avant ça, tu pouvais avoir, tu sais, tu avais deux gros trios dans chaque équipe, généralement. T'as beaucoup de toughness. Maintenant, t'as quatre, à la limite, t'as trois trios, puis des fois, t'as même un des bons joueurs sur le quatrième trio aussi. Fait que c'est la vitesse totale de la game, elle a changé énormément.
On parle aussi des entraînements, là, à l'époque, c'était peut-être pas comme ça, puis tu sais, t'as la zone sportive, puis le fait que est-ce que tu trouves que ça l'a changé aussi? Est-ce que ça t'a aidé à rester aussi longtemps, le fait que l'entraînement et tout ça? Je ne sais pas si tu t'entraînais autant au début de ta carrière.
Non, je me suis toujours entraîné beaucoup. Je dirais que c'est une des raisons pour, probablement que je joue encore. Par contre, la plus grosse différence, c'est que avant j'étais un joueur très rapide, maintenant je suis rendu vitesse moyenne. J'ai un average vitesse. Mais je me suis toujours entraîné beaucoup. Puis je dirais que c'est ça qui me permettait à mon 16 de pouvoir quand même jouer une game physique plus à l'époque aussi. Là, c'est ça qui me permet de pouvoir continuer à jouer à cet âge-là. Ça, c'est sûr.
Tu sais, Yann, quand tu as joué junior majeur, Yann était un point per game guy. Tu as toujours été un gars qui faisait beaucoup de points. Tu dans tes débuts, tu sais, on sort pas de cachette, 487 games, 611 points dans la Ligue nord-américaine. Tu es un gars qui a beaucoup produit. Comment qu'on fait mentalement, plus on vieillit, à dire, je savais que cette question-là, le tournage de bâton, je savais, il y a beaucoup de monde qui l'ont demandé, Yann, celle-là, on en reviendra tout à l'heure, mais t'sais, comment tu fais à un moment donné dans ta carrière pour dire, OK, ben, l'accepter, je vais encore jouer, mais je vais me trouver un autre rôle, parce que toute ta vie, tu as toujours voulu faire des points, tu as voulu faire gagner ton club, t'sais, I want to take it on my shoulder, puis à un moment donné, tu arrives, tu dis, OK, ouais, je suis peut-être plus ce gars-là, mais je veux jouer encore. Il faut que je trouve une manière de pouvoir continuer à jouer et d'amener un apport différent. Tu sais.
Ça, c'est bon. C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est tough mentalement. Tant qu'athlète, que tu as un rôle de faire gagner ton équipe ou à peu près d'amener les gros buts ou les gros points sur la table quand tu as le temps, les gros powerplays. Là, tu n'as plus nécessairement ce rôle-là. Mais encore là, je pense que je l'ai dit au début, la passion de la game a fait que je me suis adapté dans mon jeu, j'ai réalisé que je pouvais, tu sais, j'avais encore justement mon énergie, ma drive, ma compréhension de la game. Le fait qu'en mise au jeu, je suis encore dominant. Ça fait que là, je peux aller chercher des petits détails qui fait que je peux encore jouer à ce niveau-là, que je n'aurais peut-être plus autant de buts, autant de points que je faisais avant, mais que je sais que je peux encore aider l'équipe. Fait que ça, il faut que tu l'acceptes. Et moi, j'ai décidé de l'accepter parce que je voulais encore jouer, puis j'aime encore la drive de jouer. Puis mon rôle, ben, je l'aime, mon rôle qui est plus un leader. D'amener les détails que les autres joueurs, les joueurs de points, à la limite, vont voir les détails que je vais faire, mais qui vont pouvoir amener aussi leur game à un autre niveau parce que s'ils font ces détails-là en plus, mais ils deviennent un meilleur joueur, ça c'est sûr.
Il y a François Bellefleur dans le chat qui dit Yann, j'aimerais savoir si tu fais encore tes 1000 sauts à la corde avant chaque match.
Non, j'ai calmé un petit peu la routine, François.
Il en fait 800. Il en fait 800.
Je me garde un petit peu de gaz.
C'est bon. Yann, il y a Mathieu Ricard, je pense qu'il y a peut-être une petite demande spéciale, mais il dit la fameuse Vanette. Est-ce que tu as peut-être, pour ceux qui nous écoutent, une petite histoire de Vanette là, ou une anecdote? Là, parce que tu sais, tu l'as dit, 16 ans et demi, 17 ans dans la Ligue, tu dois avoir quand même des histoires. Là.
Des histoires d'autobus, des histoires de van, il y en a plusieurs. Mais je pourrais en raconter une que je n'étais même pas là, mais que c'est les joueurs de Thetford qui ont raconté récemment. J'ai trouvé ça bon parce que la policier ne voulait vraiment pas vous arrêter. C'est que les gars arrêtent sur le bord de l'autoroute, puis les 6 gars de la van pissent. Dans le fossé. La police a passé à côté puis ils ont continué.
Il n'y en a pas un qui est resté dans le char. Là. Les 6 sont
sortis. La police, elle est passée tout droit. Elle s'est dit, je ne veux rien voir de ça. C'est pas de mes affaires. Fait que j'ai trouvé bonne cette histoire-là. Mais je pourrais en raconter plusieurs. Puis à la limite, avec toutes ces années-là dans la Ligue, l'erreur que j'ai faite, c'est pas prendre un livre ou un notebook à chaque game quasiment. Parce qu'on préfère un livre qui vendrait des millions d'exemplaires, là, des histoires incroyables. Là. J'ai déjà vu un gars s'étamper une carte d'assurance maladie sur le chess avant une game à Saint-Jean pour lui dire « Ben, inquiétez-vous pas, s'il m'arrive de quoi, vous m'embarquez directement dans l'ambulance. <Okay. rire> » C'est bon. Il y en a eu des solides. Là. Fait que c'est sûr qu'on a... L'erreur que j'ai faite, c'est que mon notebook, je m'en souviens encore de plusieurs, mais si je l'avais écrit, on aurait pu raconter un bon livre, là. C'est écrit un bon livre.
Le fameux livre de la LNH.
Oui, ouais. Aurait vendu lui.
Mais, pas le premier qui en parle.
Non, c'est ça, tout le monde a l'air d'avoir un livre, d'après moi, tout le monde pourrait le négocier. Il y en a qui seraient plus longs, il y en a qui se mélangent tout le monde, toutes les histoires, d'après moi.
Exact.
Mais tu sais, Yann, tu arrives à Thetford. C'est la première fois que tu te ramasses à Thetford. Tu as joué contre eux autres. écoute, c'est la première fois que tu vas faire un, en fin de carrière comme ça, tu te ramasses, Bobby t'appelle, tu vas aller là. Comment tu vois l'atmosphère à Tetford? C'est une équipe quand même que pendant les années que tu étais là, ils ont gagné des championnats. C'est une équipe qui a quand même un nom dans cette ligue-là. T'sais. Avoir mis le pied dans la chambre, tu as vu, on a eu Alex Tremblay avant, c'est un gars que partout ce qui a passé, il a gagné. Il y en a des gars qui ont gagné des championnats dans ça. Comment tu te sens dans cette chambre-là? Puis comment tu vois l'atmosphère dans l'entourage de l'équipe?
Je te dirais que dans les dernières années, j'ai senti que j'avais plus de leadership à apporter à l'équipe. Je veux dire, en voulant dire que je sentais qu'il manquait un petit peu plus de drive, ou il manquait de construction d'équipe. Puis là, je suis arrivé là, puis on dirait que je fitais déjà dans le moule parce que les gars, ça fait quand même un petit bout. La majorité des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y a vraiment une bonne camaraderie. Ça, je trouve ça important pour gagner. Fait que, dans le fond, j'ai juste suivi le terrain, en réalité. Récemment, je prends ma place, j'ai du fun, on raconte des blagues, mais j'ai pas eu vraiment à amener à un autre niveau mon leadership parce que il est déjà là.
Est-ce que c'est parce que les deux dernières playoffs que tu as joué, c'est Tetford qui avait éliminé ton équipe, que tu es allé jouer là-bas, faire un peu comme Corey Perry?
En réalité, on avait gagné contre Tetford en 7 quand j'ai joué pour le Marquis.
Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ben oui, vous étiez revenu en finale, excuse-moi.
Eux autres, c'est sûr que si je me rappelle de cette série-là, eux autres avaient beaucoup de blessés, puis on avait montré du caractère là, à Jonker. Mais non, c'est. Je pense que si cette année-là, il y avait vraiment une équipe complète pour aller plus loin puis gagner. Des fois, c'est des impondérables qui fait que tu peux perdre en série. Puis la série, je le dis souvent, la ligne est tellement mince entre la victoire et la défaite. Faut que tu sois on the edge, là. Faut que tu sois prête, puis c'est vraiment ça les playoffs.
Moi, ma dernière question, là, tu sais, on le sait tout. Moi, ça fait quand même assez longtemps, Yann, qu'on se connaît, pareil. Tu sais, pour le monde qui nous écoute, tu sais, dans la vie de tous les jours, si Yann peut expliquer ce qu'il fait de ses journées, je sais qu'on en a parlé, tu as le gym, tu entraînes beaucoup de jeunes. De la Ligue Junior-Major du Québec, certains. On a eu dernièrement, la semaine passée, on a eu La Berge qui est venu avec nous autres sur notre podcast. C'est un des jeunes que tu entraînes. Mais tu fais autre chose aussi. Tu fais des conférences là, par rapport à ce qu'on voit sur Instagram, tout ça. Fait que si tu peux expliquer au monde ce que tu fais de ton quotidien de tous les jours.
Ben, en réalité, ça fait quelques temps que j'ai adopté le lifestyle keto. Moi, j'appelle ça keto zen. Puis là, justement, je donne des conférences. J'en donne une samedi, justement, à mon centre d'entraînement à zone sportive à Adelson, j'essaie d'expliquer qu'on peut faire mieux côté alimentation. Puis des fois, c'est juste quand on est bien orienté, qu'on est capable de faire les meilleurs choix alimentaires, bien, on va filer mieux, on va se sentir mieux, tant au niveau que ça soit au niveau du poids. Bon, ça, c'est souvent, il y a beaucoup de monde qui fixe là-dessus. Moi, je parle souvent au niveau de la clarté mentale, au niveau de ton énergie mentale, ton focus va être meilleur quand tu as une alimentation qui va être plus saine, qui va respecter nos principes du kétosène. Je ne suis pas dans le keto religieux nécessairement. Il y a du monde qui dit, il faut que tu manges tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides, etc. Je calcule pratiquement pas. C'est pour ça que j'essaie d'éduquer aux gens pour que ça soit accessible à tous. Il faut que ça soit simple. Puis c'est un petit peu ce que je fais justement samedi là, comme conférence. C'est drôle que tu en parles parce que c'est bientôt. Puis grâce à ça, bien, on réussit à aider plusieurs personnes. Je vais avoir quelques personnes qui vont parler pendant cette conférence-là, qui vont témoigner à quel point ils sont améliorés dans leur mode de vie. À quel point ils ont eu des résultats, puis pourquoi ils ne reviendraient plus en arrière non plus.
Comme Martin Larivière, là. Martin Larivière qui a perdu à peu près 20 livres. Junior Larivière aussi, il a perdu beaucoup, je crois.
Il a perdu beaucoup. Hein,
il y a Dan Grou qui l'a essayé un bout. Il est comme une autre Dan. Il ne sait pas trop. Il essaye pas. Mais
c'est
oui.
Constance, là.
Puis avec tout ça, tu as le gym aussi. Tu entraînes beaucoup de jeunes, que ce soit Ligue Junior-Major du Québec, mais tu en as d'autres aussi, pas juste de hockey, je crois.
On entraîne aussi des gens qui veulent être en forme, qui veulent se prendre en main, qui veulent être actifs. On a juste des patineuses, des boxeurs, quelques athlètes aussi, c'est la partie athlétique, les joueurs de hockey, mais aussi comme on a monsieur tout le monde qui veulent faire une remise en forme, qui veulent s'améliorer en tant qu'être humain, puis c'est un petit peu l'objectif. Puis moi, je dis souvent, j'ai la plus belle job au monde. Ben, j'ai les deux plus belles jobs au monde. Je m'amuse à jouer au hockey, fait que je ne considère même pas que c'est une job. Puis j'aide les gens à être meilleurs. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant en tant que métier qu'aider les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes.
La question est revenue là, sur le chat à propos du quand tu tournes ton bâton avant les mises au jeu. Fait que, on va t'avoir une réponse. Est-ce que c'est un rituel comme Raphaël Nadal, quelque chose comme ça au tennis? Ou...
C'est rendu ça, à la limite. C'est rendu ça, mais à l'origine, l'histoire est quand même plate. C'est un psychologue sportif qui m'avait dit quand tu t'en vas faire quelque chose de très focus, jouer avec une pièce d'équipement, puis c'est ça que j'ai trouvé. En plus de me focusser, moi, je défocus le gars l'autre bord, fait que ça, c'est bon.
Okay. Alors, Jonathan Bernard qui a écrit justement pour déconcentrer l'adversaire, je crois.
Il y en a, je dirais qu'il y en a que, ça, pour le vrai, ça les déconcentre, puis ils disent à l'arbitre, ils disent à l'arbitre de me dire d'arrêter de tourner ma palette. Fait que là, en partant, je me dis, lui, il n'est pas prêt de gagner le face-off, là.
C'est bon.
Généralement, le face-off, il est tout en arrière, il est à mon défenseur. Là.
J'espère qu'il n'y a pas trop de joueurs qui nous écoutent parce que tu as peut-être donné un truc, quelque chose dans.
Non, mais le pire, c'est que c'est vrai que c'est mental parce que j'en pogne pas ça dans les face-offs, mais c'est moi, je vois compte. Puis même quand je suis allé, il me déconcentre, je suis dit, il va t'arrêter. Puis à un moment donné, une fois qu'il est déjà passé à côté de moi, je suis tabarouette, j'ai oublié. Je suis regardé son Christy d'hockey qui tourne, je suis dit, man, il va t'arrêter de le tourner, man. Je suis dit, ça, cette affaire-là. Fait que tu vois, Yann, ça marche finalement, ça marche.
Ton là, ça serait drôle que tous les centres de la ligue se mettent à faire ça.
Moi, je vais commencer à l'aile, moi aussi, en attendant. Le Vincent va tourner mon bâton en attendant.
Il y a Mick Carrier qui te salue dans le chat aussi en passant. Hein.
Mick, c'est un ami aussi que justement, c'est un petit peu lui, le lifestyle kétosène que je parlais, qui a initié beaucoup de monde dans notre communauté, si on veut, là, de kétosène.
Yes, all right. Merci Yann de t'amener sur le balado. Merci de ton temps. Puis ben, on va te souhaiter une bonne saison. Peut-être une petite coupe à Tetfield.
C'est pour ça que j'ai joué cette année. À chaque saison, je pourrais gagner une coupe, mais là, on est là. La saison a commencé.
T'es-tu là vendredi? T'es-tu là vendredi? Tu te sens vendredi?
Je ne vole pas mes cartes avant.
OK.
Ah, il a dit pour le bâton qui tourne, mais pas pour ça. Donc,
C'est bon, Yann. C'est merci beaucoup encore, sérieux. Merci, Yann.
Merci,
Yann. C'est
vraiment un fun. N'importe quand.
Merci.
Ciao.
Ciao.
Yes,
toujours intéressant, pareil. Comme là, on a quand même reçu deux gars de que ça fait des années qu'ils jouent. Il y a des jeunes, on a reçu déjà, on a reçu les Malouins. Jay Dan, c'est un peu plus jeune, mais ça fait des années qu'ils sont dans la ligue. Mais on va sûrement en savoir des plus jeunes qui commencent à entrer dans la ligue. Mais on parle ici de deux vétérans établis dans ces ligues-là. T'sais, c'est impressionnant d'entendre l'histoire, mais. J'écoutais l'histoire de Yann avec la carte d'assurance maladie à vaut de l'or. Là. Je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Puis j'en ai entendu des histoires du tombe 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont rendus à 10 tombes dans cette ligue-là de livres. Là. Mais celle-là, à vaut de l'or, pas à peu près.
Yes. Donc, messieurs, est-ce qu'on va au tour d'horizon des matchs du dernier week-end? On pourrait peut-être crever la piscine tout de suite en partant et parler de la partie Saint-Georges. Qu'est-ce que vous en pensez?
Personnellement, là, je pense qu'on est. Je pèse mes mots, j'essaie de trouver comment que je peux expliquer ça, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de jouer 60 minutes. J'enlève aucunement le crédit aux équipes qui jouent contre nous autres. Jouent des bonnes games de hockey. Tetford est venu dans notre building jouer un 60 minutes complet. La semaine d'avant, Jonquière a joué deux games de 60 minutes complets. Je pense que nous autres, personnellement, il faut trouver le moyen de jouer 60 minutes. T'sais, comme Yann a dit dans cette ligue-là, puis Alex l'a dit aussi, la ligne est mince en gagner et perdre. Un soir, tu peux gagner 5-2, puis le lendemain, tu peux perdre de 9-1. Je dis, il faut que tu te présentes, c'est toutes des bonnes équipes. C'est à nous de trouver le moyen de jouer 60 minutes, être prête quand le puck il drop, puis. Quand le puck, il drop jusqu'à la fin, jusqu'au buzzer final. Je te ferai pas de cachette que vendredi, je l'ai eu beaucoup sur le cœur, puis je l'ai encore beaucoup sur le cœur, je pense, vendredi. J'ai hâte d'aller à Tetford pour, si je peux dire, « redeem herself », si je peux le dire en anglais, parce qu'on s'est fait huer à la maison vendredi en fin de game. Puis je vais demander aux partisans de ne pas le faire. Ils payent leur ticket, ils ont le droit d'être là. Puis je crois que j'ai arrêté dans les estrades, je l'aurais fait la même affaire qu'eux autres. On ne donne pas un effort constant de 60 minutes. Ils ont le droit. Puis je pense que c'est juste une claque d'en face, mais en même temps, on est juste à la 7e game de la saison. Il en reste encore 29. Puis c'est à nous de juste se replacer. Mais comme je t'ai dit, Tedford est venu jouer une grosse game dans notre building, puis c'est nous qui ne s'est pas présenté pendant 60 minutes. Puis comme je t'ai dit, on va régler le problème cette semaine. J'espère que les gars ils sont capables de penser à ça. Tu sais, tu pratiques pas, mais tu es quand même capable de penser à ton vendredi. Savoir comment tu vas te préparer ta semaine, te préparer pour vendredi pour être prête. Fait que, comme je t'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Je passerai de midi à 14h sur la game. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire, on a perdu, puis ça fait une couple de games qu'on donne beaucoup de goals. On n'aide pas nos gardiens de but. Puis jamais, je vais être le premier à le dire, jamais moi je blâme un gardien de but pour une défaite de 10 à 1. Ou, je veux dire, il y a des moments que des fois, nous autres aussi, il faut les aider. Fait que c'est une unité en ce moment, c'est les 20 joueurs qu'il faut qu'ils trouvent un moyen d'être meilleurs à tous les soirs. Fait que, c'est à peu près ça. Fait que, ça simplifie. Je te mets ça de même facile, c'est ça. C'est ça notre fin de semaine. Puis j'espère qu'en fin de semaine prochaine, on va être prêts parce que ça nous prend deux victoires. On a Tedford chez eux, puis on a Laval, qu'on va en parler, qui viennent de sortir avec deux grosses victoires en fin de semaine contre Jonquière. Fait que c'est à nous d'être prêts. Puis c'est un autre week-end qui commence. Puis comme on dit, tout peut arriver dans la fin de semaine.
Ben après, sur une défaite de 6 à 2, parce qu'on n'avait pas dit de pointage, mais la bonne nouvelle, je pense que c'est justement vous allez avoir l'occasion de vous reprendre contre Tedford, justement, vendredi. Donc, on essaie peut-être, on va sûrement avoir le couteau entre les dents. En tout cas, si on voulait une motivation, je pense qu'on en a une, là, sinon on n'en a pas besoin d'autre.
Je vais répondre à la question avant que quelqu'un pense que je me défile. Là, la question de Vincent de Blois, qui est à confiance en tes deux gardiens de but, absolument. De les yeux fermés. Absolument, Vincent. Je l'ai dit, je ne blâmerai jamais mes deux gardiens de but. Ils ont fait la job. C'est à nous de les aider. Tu sais, des fois, quand la confiance d'un joueur qui joue en avant, tu as de la misère à la mettre dedans, tu travailles, mais tu n'en mets pas dedans ou peu importe, tu perds un peu confiance. Mais tu sais, les gardiens de but, c'est la même affaire. Tu sais, comme si à tous les soirs, tu te ramasses à avoir des 2 contre 0, des un breakaway, des 2 contre 1, des 3 contre 2, puis il faut tout le temps que tu fasses des miracles. Tu as hâte d'avoir une petite soirée, sans dire relax, mais une soirée que tu vas te mettre en confiance, puis après ça, boum, ça build, puis là, tu prends confiance. Comme un gars qui score un goal, qui shot dans l'arrière du net, tu fais 10 games, qui n'a pas scoré, il en met une dans l'arrière du net, elle rentre, puis après ça, boum, ça part, puis pendant 10 games de suite, tu scores, puis tu dis, Colin, comment que ça a marché, mais c'est parce que tu as simplifié. Fait que, si je réponds un peu à la question, Vincent, oui, j'ai confiance en mes gardiens de but, mais il faut leur donner une chance aussi, de comme le reste de l'équipe, de se mettre en confiance aussi. Puis on les aide pas parce qu'on leur donne, tu sais, oui, on donne 25, 27 shots par game, on n'en donne pas beaucoup, mais vous verrez le nombre de A1 qu'on donne, c'est du 2 contre 1, c'est du 3 contre 2, c'est des breakaways. Je pense qu'on était fun, on en a 4 breakaways. Tu sais, à un moment donné, goaler, t'as bien beau leur demander un miracle, mais à tous les soirs, c'est pas le fun. T'as hâte d'en avoir une game que tu dis, OK, je file le puck, je suis confiant. Puis à un moment donné, la confiance rentre.
Il y a Mathieu Landry qui demande à Raphaël Maheu, es-tu revenu? Il n'est pas revenu, mais c'est quand qu'il va revenir?
Il s'en vient bientôt, on l'attend. Il s'en vient bientôt, Raphaël. Devrait être de l'alignement d'ici, je crois, Noël. A des obligations en ce moment, Raphaël, mais devrait être bientôt de retour avec nous, de ce que j'ai cru entendre, je crois. Puis oui, ça va nous aider. C'est un gars qui est quand même jeune, mais très établi dans la ligue, pareil. Là, je veux dire, ça fait une couple d'années qu'il est là. C'est un très bon défenseur. David pourrait le dire, il l'a vu jouer pareil. Raphaël Maheu, c'est un très bon défenseur. Fait que, oui, on a hâte qu'il revienne.
Hein? Juste un top pairing. Il peut jouer 25 minutes facile par game. Puis
que, oui, on a hâte qu'il revienne, mais en attendant qu'il ne soit pas là, je veux dire, la solution est dans la chambre. Les pièces du puzzle sont dans la chambre. C'est à nous de les mettre de la bonne manière. Quand Raphaël va arriver, il va juste rentrer dans le moule comme il fait quand il vient. C'est un gars qui prend sa place. Puis that's it, that's all. Ouais.
Mais si, par exemple, j'ai une petite anecdote, si on peut finir la portion pour la femme sur une note un peu plus légère. Là. Au moins, de ce qu'on a vu de la game, à la fin de la game, ça brassait un peu, il y a eu quelques combats. Puis, tu sais, on fait tout ça quand on venait de Rivière-du-Loup, on fait les box scores. Là, on va sur le box score, on voit Robbie Graham contre Thomas Belmore, tu sais, parce que ça s'est battu. Fait que là, on est comme tabarnouche. Puis là, dans la van avec qui j'étais, il y avait Victor Beaulac, qui a déjà joué avec Graham. Fait qu'il dit, Colin, il dit, m'a le texté, voir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, parce que, what the fuck.
On va voir s'il a donné la même réponse qu'il nous a donné, on va te le dire.
Ah ouais, ok, c'est bon. Fait qu'en tout cas.
Non, vas-y, je veux voir.
Ben, c'est ça, il dit, ah, puis, t'es-tu correct? Il dit, ouais, tu sais, on a donné un coup de poing chaque, on a tombé. Mais il dit, comment ça, genre tout ça? Puis la réponse qu'il a donnée, c'est dit, ah, il dit, je savais pas c'était qui.
C'est ça. C'est exactement la réponse. Quand on est rentré dans la chambre, on était là, je dis, man, Randy, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'avais aucune idée c'était qui, man. Il dit, non, t'avais pas aucune. Non, il dit, non, j'avais aucune idée c'était qui. Mais chapeau, on a vu Anthony Verrette se battre, Will Breton, Robbie Graham qui se sont battus. Tu sais, au-delà de notre défaite de 6 à 2, on voit quand même qu'on monte du caractère. Il nous manquait quand même démarrer Hamel dans le line-up.
Ouais.
On a montré du caractère. C'est des gars, tu sais, Anthony Verrette, c'est pas gros. Will Breton, c'est pas gros non plus. Robbie est allé avec probablement un des plus toughs dans la ligue en Thomas Belmore. Fait que, tu sais, au moins, on essaie de trouver le positif de ça. Puis comme tu dis, mais Robbie, il savait pas c'était qui. Il avait aucune idée. On lui a dit après c'était qui. Fait que non, c'était drôle. Pareil, c'était drôle, mais c'est sur le coup. On a eu peur pour Robbie, mais ça a bien été. Ça a été correct.
Mais tu sais, je veux dire, le gars, il a pas faux yeux pareil. Je veux dire, même si tu sais pas c'est qui, je veux dire, c'est quand même un gros bonhomme. Là.
Non, c'est un gros bonhomme pareil. Mais ben, tu sais, même Robbie, c'est un gros bonhomme pareil, mais Thomas, c'est quand même un gros bonhomme.
Il y a Pierre Fontaine, je ne sais pas si tu veux en parler, Tiff, là, mais Pierre Fontaine qui dit ça ressemble à quoi un speech de Forcier à la pratique le lendemain d'une défaite contre Tedford?
Ben, on a pratiqué samedi matin. Serge n'avait pas grand-chose à dire. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pense que ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur, mais on a eu un bon meeting après la game à l'intérieur de la chambre entre joueurs. Serge, son bureau est à côté, entendu. Je pense que Serge aurait bien beau renverser sa glace puis renchérir. Je veux dire, ça ne servait plus à rien. Là. On s'est parlé dans le blanc des yeux entre vétérans, entre recrues. Tout le monde a eu son mot à dire. Fait que Serge est arrivé, il nous a regardé, il a dit, ben aujourd'hui, ready to work, puis on s'en va, on a pratiqué pendant une heure notre zone défensive. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait pratiquer, là, avec le nombre de goals qu'on a donné dans les deux dernières games. Fait que pour répondre à ta question, Pierre, Serge n'a rien dit, parce que ça avait été adressé dans la chambre après la game. On s'est jasé dans le blanc des yeux, puis that's it. On est des hommes au-delà de, tu sais, je veux dire, on n'est pas des enfants de 16, 15, 16 ans, on est quand même la vérité. Fait qu'on a main up à qu'est-ce qu'on avait à faire, puis that's it.
All right. Donc, on close le sujet.
Yes.
Le cool qui va avoir la chance de se reprendre vendredi contre Tedford, samedi contre les Pétroliers. Donc, parlant des Pétroliers, il y a eu un home and home, Jonquière et Pétroliers. Dans le premier match, là, un match de 1-0, un blanc pour Francis Leclerc. Ça a été le contraire là, de qu'est-ce qu'on a vu à Rivière-du-Loup contre Sorel, 1-0. Dans ce match-là aussi, Karel Saint-Laurent qui a arrêté 5 échappés. On parlait d'échappés tantôt. Deux fois Desrosiers, une fois Bouchard, une fois Poulin et une fois Hamelin. Donc,
c'était quoi les shots en troisième période? C'était pas 19-0 les shots en troisième période aussi?
Ben, au total...
Vous pouvez revoir ça, je pense que c'était 19-0 en troisième période.
Au total, là, Karel Saint-Laurent, là, il y a eu 44 tirs, puis 17 tirs, là, Francis Leclerc pour le jeu blanc.
Ouais, puis tu sais, c'est là, je pense que c'est pas une erreur du marqueur, c'est ça, je suis en train de checker. 19-0.
19-0 en troisième période est lancé.
Mm-hmm. Hey, ça c'est, doit être du jamais vu, ça. Mais tu sais, Francis Leclerc a super bien gaulé, il a fait des arrêts vraiment importants. Là. Il y a eu des bons tirs sur les différents. Mais je pense que quand on regarde les shots, pour avoir revisionné le match aussi. La raison pourquoi ça a fini 1-0, c'est quand même Karel Saint-Laurent. Parce que les Pétroliers ont eu des chances de marquer pendant pas mal tout le match. Puis il a gardé ça serré, il a donné une chance à son équipe de l'emporter. Fait que, ouais, mais c'est fait différent parce que justement, dans la Ligue américaine, c'est une ligue qui est un petit peu plus axée sur l'offensive, je dirais. Fait que d'avoir des matchs comme ça, c'était quand même un bon match là, parce que justement, il y avait de l'action, ça patinait, c'était tout le temps up and down. Fait que c'était pas un match qui était terne non plus, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Que c'était quand même une bonne partie, puis un bon duel de gardien. Mm-hmm. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire le match qu'il y a eu, duel de gardien. Mm-hmm.
Puis dans la
c'est deuxième, vrai que c'est rare de voir ça des 1-0. C'est rare que tu vois ça dans cette ligue-là, 1-0. Là,
ça l'a valu quand même la première étoile de la semaine à Francis Leclerc aussi. Mm-hmm. Donc, puis c'est très rare.
Ouais, c'est rare des jeux blancs dans la Ligue nord-américaine. Fait que ça flash quand on voit ça.
Ouais, c'est ça.
Et aussi dans le deuxième match, les pétroliers, encore une victoire 4-3 cette fois-ci. Beaucoup de pénalités dans le match. Mathieu Medley, là, le vétéran, un but, deux passes, trois passes, un bureau blé, Hamelin, où il met les buts aussi.
Ouais. C'était un match de c'est ça, il y a eu vraiment beaucoup de pénalités. Puis, on le parlait, on avait lancé des fleurs là, justement à François Ouimet la semaine passée. Ben, il a fait exactement ça à Jonquière. Il a fait un but en désavantage numérique. Donc, il est parti sur le break en interceptant un jeu en haut de la zone. Fait que je pense qu'un but en désavantage numérique, ça fait un peu la différence. Sinon, c'était un match qui était égal jusqu'en troisième période. C'est Hamelin qui a fait un but. Peut-être sur un tir, je dirais que Carrel aimerait sûrement revoir. Mais en même temps, je veux dire, il en avait tellement volé la veille qu'il n'y a rien à se reprocher. Là. Mais sinon, c'était pas mal ça la game. Mais ouais, c'était une game qui était un petit peu plus arrêtée que celle de vendredi. Là, parce que justement, là, il y avait souvent des avantages numériques. Là. Mais c'était une game série aussi. Puis tu sais, ça montre que il y a vraiment de la parité dans la ligue parce que il avait juste perdu une game avant la fin de semaine dernière, Jonquière. Puis, Laval, justement, eux sont sa pente un peu ascendante ces temps-ci. Là, fait que ça resserrait le classement en haut du classement. Puis, c'est encore des games de un but. Là. Les quatre dernières games de Laval, c'est des matchs qui ont été décidés en dedans d'un but. Là, fait que ça fait des bons matchs serrés.
On peut quand même
Laval a quand même pris. Ouais, vas-y. Non, mais je veux dire, Laval a quand même pris son air d'aller en fin de semaine pour l'équipe. Là, avait un début de saison un peu en dents de scie. On en avait parlé avec Chris Cloutier la semaine passée. Il avait besoin un peu d'ajustement. Puis, c'est sûr qu'ils ont pratiqué à toutes les mains. Des ajouts
à défensive aussi, ça, je veux dire, en fond.
Fait que, tu sais, deux victoires, c'est comme si Laval a un peu... repris, là, tu sais, Chris avait dit qu'il voulait se replacer, puis ils sont allés chercher deux grosses victoires, puis tu sais, c'était pas des raclés non plus, fait que tu sais, Jonquière, malgré le fait que Jonquière était 4-1 avant la fin de semaine, tu sais, ils sont 4-3, sont encore dans la course, tu sais, ils ont 8 points, ils sont à 3 points de la tête, mais tu sais, c'est deux victoires, c'est deux défaites par un but, tu sais, tu penses que t'es encore là, peut-être à part probablement, tu sais, comme je te dis, là, Carrel a volé le show à la game à Laval, mais au-delà de ça, tu reviens à la maison quand même tirer une bonne game. Ça s'est décidé sur un short-headed goal, un but en piqué. Mais Laval, Sorel, Jonquière, je veux dire, est encore là dans le coup. Tu gagnes deux games la fin de semaine d'avant, t'en perds deux. Tu vois comment que la Ligue a une parité pareille. Là, d'une fin de semaine à l'autre, ça peut varier, le classement va bouger. Fait, non, pour Laval, je pense qu'eux autres avaient besoin de ça. Puis ils ont répondu à l'appel en fin de semaine avec deux grosses victoires quand que il y avait une fiche à moins de 500, il y avait une fiche négative. Fait que pour eux autres, ils se sont replacés sur le droit chemin.
Oui, puis on parlait au début de l'année, justement, puis il y a eu la défensive qui en arrachait plus. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés, puis je pense que ça commence à apparaître. Là. Parce que, justement, là, dans les deux matchs, là, il y avait beaucoup moins de break pour l'autre équipe qu'il y avait au début de l'année. Fait que, ils rendent ça pas mal plus facile pour leur gardien depuis deux fins de semaine. Là, je dirais.
Il y a la question de Mathieu Landry qui dit « David, pourquoi Christian a laissé aller Carrel? » Je me suis toujours posé la question. Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question à Christian Bouchard directement.
Ben l'année qu'on l'a échangé, on avait Gélina. Gélina, c'est un super bon gardien aussi. Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'année avant le COVID, il y a Marco Cousineau qui a fait son retour au jeu. Fait que là, on se retrouvait avec trois gardiens qui pouvaient gauler dans la ligue. Puis on l'avait échangé contre un défenseur, là, Vincent Richer. Puis je pense que c'est juste parce qu'on avait un surplus de gardiens puis on manquait de profondeur à défense. Fait que Christian, il a décidé de laisser partir Carrel.
Il y avait trois bons gardiens. Il aurait pu piquer dans le chapeau et dire « OK, on va en prendre un, puis celui-là, je vais le laisser. » C'était trois gardiens de pour répondre un peu à David qui était là aussi, mais c'est trois gardiens de numéro un dans cette ligue-là. Là. Partout, ce qui jouerait serait numéro un. Puis, comme tu dis, Christian Deschênes avait une décision, mais il aurait pu prendre un chapeau de même et dire « On va mettre les trois noms, puis je vais en prendre un. » Les trois étaient pas mal. C'est trois bons gardiens de but, mais à un moment donné, tu peux pas tous les avoir. Là. Faut que t'en...
Ouais, puis tu sais.
Trois numéro un.
Ouais, puis tu sais, cette année-là, faut dire que la première moitié de saison de Gilina était honnêtement vraiment excellente. Là. Ses stats de première moitié de saison, là, il était dans les top 2 goalers de la ligue dans le début de cette année-là. Puis Cousineau, dans le fond, il était parti après avoir gagné le MVP des playoffs en 2018. Fait que, c'est pour ça, je pense que Carrel était un peu le odd man out, comme on veut, dans cette situation-là. Là. Fait que je pense que c'est pour ça. Là. Mais je ne sais pas si c'est un fan de Jonquière qui a posé la question, mais si oui, ben, vous voyez que justement, là, c'est un goaler qui est capable de faire la liste.
Ben oui.
Dans les...
Yes. Donc, aussi, on met nom Épervier et Rivière-du-Loup dans le premier match Festival Offensif 10. À 6, Donald Graham a été enlevé du match après 8 minutes.
Ouais, c'est plate. Il y avait tellement un beau début de saison. Mais tu sais, en même temps, ce qu'il me disait, c'est que...
Rivière-du-Loup menait 5-1 après la première période aussi.
Ouais. Puis tu sais, pour revenir à Graham, tu sais, pas qu'il faut qu'il revienne sur terre, mais le monde, il regardait c'est comment il jouait depuis le début de l'année, puis c'était comme, OK, si ce goaler-là joue de même toute l'année, je veux dire, il n'y a pas d'affaire dans la Ligue nord-américaine, parce que ça avait pas l'air. Fait peut-être que ça a juste un petit peu un retour balancier, même si c'est lui qui a goalé samedi, puis c'est bien repris. Mais ouais, pour vrai, ça fait longtemps que je suis ça, puis je me rappelle pas avoir vu un match de même. Les Éperviers n'étaient pas là pantoute en première période. Se faisaient dominer sur tous les aspects. Rivière-du-Loup attaquait tout le temps. On n'était pas capable de rentrer dans l'autre zone. Puis finalement, le revirement, c'est un peu fou ce qui s'est passé là, parce que ça a reviré de bord complètement. Je pense que c'était 5-5. Il n'y avait même pas 10 minutes de jouer en deuxième. Ça a complètement viré de bord. Puis je dois dire que d'après moi, si on avait à, c'est facile à dire quand on regarde après la game, là, mais à 5-1, Maxime Saint-Cyr, il s'est fait décerner un tir de pénalité, puis Gélina l'a arrêté. Fait que je pense que si ça tombait 6-1, puis qu'il continuait à marquer, même rendu en deuxième période, d'après moi, ça la game aurait pu se mener là. Fait que ça a quand même été un point tournant, parce que direct après, puis c'est en désavantage numérique qu'il l'avait eu. Fait qu'on avait un power play après. Puis après l'arrêt, je me rappelle plus c'était quel joueur. Mais peut-être Chabot, mais en tout cas, il y a eu une pénalité pour retarder le jeu, là, un peu une bad luck du côté de Rivière-du-Loup. Là. Ils ont sacré le poc au-dessus de la baie vitrée. Mm-hmm. Ça a donné un 5 contre 3, puis Sorel a marqué coup sur coup sur le 5 contre 3 en partant, puis sur le 5 contre 4 qui restait après. Fait que c'est ça, je pense, qui a fait changer le vent de bord dans le game. Okay. Sinon, c'est un peu ça. Là. Puis c'est pas que ça se tramait, mais comme rendu à 5-3, 5-4, tu sais qu'il n'est pas venu tout de suite après, je pense que c'est le momentum, t'es complètement viré de bord. Là. Fait que je pense que
va te le dire, c'est très rare que je vois Sorel donner 6 goals dans une game. 6 goals, c'est ce qu'il donne à peu près dans un mois d'activité d'habitude. Je veux dire, là, j'ai comme été surpris parce que, tu sais, j'en ai déjà parlé au début du podcast. Sorel, c'est une équipe qui est très difficile à jouer contre. Ils rarement vont te donner des 3 contre 2. Les hard men rush sont pas. T'es mieux, quand t'en as, t'es mieux de les mettre dedans parce que les games, ils vont finir 2-1, 3-2, ils jouent de la bonne manière. Fait que j'ai quand même été surpris de voir le 10-6. Je me suis dit, tabarouette, tu sais. Puis j'ai pas peur pour votre 10 parce que je crois que vous pouvez en mettre 10 dedans. Vous avez quand même l'offensive pour le faire, mais les games, les gagner 2-1, vous êtes capable aussi de les gagner. Fait que donc, j'avais été surpris un peu de voir 6 goals accordés par Sorel parce que d'habitude, défensivement, vous jouez très tight, là, tu sais.
Ouais. Puis c'est drôle parce que dans les 5 buts en première période, il y a 3 buts qui sont complètement identiques. Mise en jeu en zone offensive pour Rivière-du-Loup, gagne le face-off, tire immédiatement, puis elle rentre dedans. Fait que c'était... Puis ça, avec, c'est une affaire, tu sais. Quand je disais qu'à la première période, là, ça marchait pas pantoute, les face-off, Rivière-du-Loup, ils gagnaient tout clean. Tu sais, il y avait même pas, on dirait, de combativité sur ce sac de mise en jeu. Puis fait que je pense que c'était... C'est plate, c'est plate, tu sais, pour Rivière-du-Loup parce que Moi, je comprends pas en plus ce qui s'est passé parce qu'il y avait tellement de momentum. C'est le retour de Villemaire en plus. La foule était dedans. Il y avait une belle foule vendredi à Rivière-du-Loup. Mm-hmm. Puis tu sais, il y a une super belle période, première période de rêve. Puis après ça, ça s'est comme un peu effondré. Là, puis c'est ça un peu. Puis tu sais, c'est plate à ramener ça comme thème, mais c'est un peu ça qu'on voit depuis le début de l'année à Rivière-du-Loup. C'est pas la première fois qu'ils ont échappé des avances. Je pense que c'est ça un peu que le coach disait en entrevue d'après-match, c'est qu'il est tanné puis qu'il pense que peut-être c'est un peu un manque de force mentale. C'est Eric Haley qui a dit ça. Mm-hmm. Fait que, mais tu sais, en même temps, si on peut garder le positif, c'est que ils sont capables d'en mettre dedans, ils sont capables de prendre les avances, c'est juste de finir les matchs puis de garder ces avances-là. Mm-hmm.
Puis dans le deuxième match, les Éperviers ont gagné 5-3. Deuxième match en moins de 24 heures. Souvent, là, les commentateurs ont dit qu'on sentait la fatigue du côté des deux équipes.
Ouais, je dirais peut-être plus le match avançait, là, tu voyais que le tempo du jeu ralentissait, plus le match avançait. Puis sinon, je pense que ça s'est joué en première période, ce match-là. Puis ça a été un match serré, les deux clubs se sont tenus, mais les Éperviers ont réussi à marquer une coupe de but rapide en première période, puis on dirait que ça les trois n'ont jamais réussi à revenir. Mais à leur crédit, ils sont restés dans le game toute la game, surtout après la game qu'ils ont eu la veille de perdre 3-1 en partant en première période. Là, il y a plus facilement dire hey, Colin, on est sur la route, on a vraiment juste pas une bonne fin de semaine, on arrête ça là, mais ils ont resté dedans toute la game. Là. Fait que c'est quand même à leur avantage. Puis en plus, il manquait des joueurs là. Le samedi, là, leur meilleur défenseur, Michael Ward, n'était pas là samedi. Là, fait qu'ils ont quand même réussi à regarder ça. Sinon, on a parlé brièvement là, de l'échange qui a amené Boursois à Rivière-du-Loup. Là. Je pense qu'il y avait un petit peu de profondeur à défensive à Jonquière. Fait qu'il y avait un peu moins sa place. Mais je pense que c'est un joueur que le monde à Rivière-du-Loup vont apprécier. Il y a un bon gabarit, il y a un bon tir frappé. Puis,
il patine bien. Beaucoup de patin.
Pour sa grosseur, il est vraiment un bon coup de patin. Mm-hmm. Je pense que c'est un joueur qui va aider. Puis en plus, c'est un joueur qui est un petit peu moins jeune que les. Il a un peu plus d'expérience dans le hockey que les autres jeunes qui ont été apportés à Rivière-du-Loup. Fait que ça a peut-être aidé à stabiliser un peu la défensive. Là. Mais ça aussi, c'est une belle acquisition pour eux autres.
Yes, sir. Donc, sinon, là, ça complète pas mal notre tour. Là, d'horizon du dernier week-end. Donc, peut-être juste dire là, que Cool FM joue contre Thetford samedi la semaine prochaine. Les Éperviers.
Donc, vendredi.
Vendredi. Les Éperviers contre Jonquière, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup contre Pétrolier-Épervier. Pétrolier contre les 3L et Saint-Georges. Je pense qu'il y a une game aussi le jeudi. Là,
jeudi prochain, Sorel contre Thetford à Sorel, là, les fameuses games. C'est-tu à Thetford ou c'est à Sorel?
À Thetford, je pense, moi.
C'est à Thetford, oui. C'est à Thetford. Fait. Non, ça va être un gros week-end encore. Là, on s'en va du fameux home and home. Là. Ça faisait deux fins de semaine qu'on avait le fameux home and home. Fait que là, ça va faire du bien d'avoir deux équipes différentes là, pour nous autres aller à Thetford, avoir la chance de, comme j'ai dit plus tôt, de redeem herself, là, de remettre la monnaie de leur pièce à la maison chez eux. Puis le lendemain, on pogne une équipe qui est très haute ces temps-ci en Laval, qui a une très bonne offensive. Fait que, tu sais, c'est pour nous autres, c'est deux bons tests en fin de semaine. Puis comme je te dis, si j'ai bien vu aussi Rivière-du-Loup, qui n'auront pas de voyagement tant que ça à faire, les gars de la Rive-Sud, je pense qu'ils jouent à Laval et à Sorel, si je ne me trompe pas. Ils n'ont pas de game à Rivière-du-Loup en fin de semaine. Fait que, tu sais, pour les gars de Rivière-du-Loup, retourner à la maison, pas de voyagement, pas obligé de retourner à Rivière-du-Loup, peut aussi les avantager dans cette fin de semaine-là. Là. Tu sais, c'est pas comme dans la Ligue nationale que tu joues pour Anaheim, tu restes Anaheim. Tu sais, je veux dire, les gars, il y en a qui viennent de la Rive-Sud, fait que ça peut les aider aussi dans cette fin de semaine-là. Là.
C'est drôle parce que, tu sais, ils jouent deux games sur la route, mais ils risquent d'être plus reposés que les gars de Sorel le samedi parce que Sorel joue à Jonquière le vendredi.
C'est ça. Fait que c'est quand même assez drôle comme analyse, mais c'est vrai pareil. Là, fait que, ça va pouvoir les aider. Puis on a Sorel, comme tu dis, qui joue à Jonquière en fin de semaine aussi, qui va être une très bonne game. Là, Sorel-Jonquière. Sorel qui est premier au classement, on vient de le voir. Puis Jonquière, malgré le deux défaites en fin de semaine, qui se maintient là à 4 victoires, 3 défaites. Fait que... Ah, excuse-moi, Denis, le staff, je sais que vous êtes de Rivière-du-Loup. Excuse-moi, je sais que vous autres, vous le faites, le voyagement. Excuse-moi, Denis. Je parlais pour les joueurs, Denis.
Je leur souhaite qu'ils couchent sur la route en fin de semaine, par exemple.
Ouais, je leur souhaite. Denis va peut-être nous répondre. Est-ce que vous allez coucher sur la route, mon Denis? Tu peux répondre à la question, j'espère, parce que c'est quand même Laval-Sorel, là, c'est pas trop loin, mais retourner de Laval pour retourner à Rivière-du-Loup pour revenir à Sorel, je trouve que ça fait long pas à peu près.
Ouais.
Ça va faire du voyagement. Là. Fait que non, ça ressemble à ça.
Yes. Donc, on pourrait peut-être aller, messieurs, là, au top de la semaine, des top 5 des jeux de la semaine, et on va revenir ensuite pour peut-être un petit mot de la fin.
Un quiz! J'ai un quiz cette semaine, les boys!
Un quiz! Bon, on revient pour le quiz! Fait que restez avec nous, on revient avec le quiz.
Massenauer, Hamelin est seul. Tente la fête. Oh, quel arrêt! Saint-Laurent-Dino, wow, encore une fois.
Spectacle, Karel Saint-Laurent, ce soir. Une cinquième échappée pour les pétroliers.
On a vu juste dessiner.
Wow, sortie de zone de Massenauer.
Guillaume Lépine, un tir bloqué. De l'autre côté, bel arrêt de Girard de la Jambière. Quel arrêt! Alors que c'est récupéré par la suite du côté de Nadeau. Nadeau s'avance. Et la rondelle passe de l'autre côté. Oh, bien passé, malheureusement, c'est manqué.
La rondelle qui est repoussée dans l'autre coin. Paradis reprend. Prend son temps. Oh, quelle mise en échec de Doucet! Paradis, les quatre fers en l'air. Et là, on va aller le voir. C'est Véro qui va voir Doucet.
C'est une mise en échec légale.
Légale.
Épaule directement à l'estomac.
Et là, il y a quatre joueurs des Marquis de Jonquière autour de Doucet. Et là, les pétroliers qui s'en viennent. Doucet est un colosse qui est arrivé dans le cercle.
Asselin cherche ses options. Passe à Marcotte. Marcotte, oh, quelle belle passe de Loïc Marcotte à Maxime Saint-Cyr qui marque son 11e de la saison.
Ouch.
Donc encore une performance de deux buts de Maxime Saint-Cyr. Et sur le jeu, là, on a vu encore une fois toute la puissance là, de l'attaque massive des 3L qui récolte un deuxième.
Faire vite. Picard est seul. S'en vient à l'aile. Quelle belle passe dans l'enclave. C'était pour Christian Ouellette et Félix Leclerc. Félix Leclerc. Francis Leclerc qui dit non.
Oh, quel arrêt de Francis Leclerc. Un 2 contre 0. Quel arrêt. Wow.
Je sais pas si on va voir à la reprise, mais le changement de défenseur.
Le retour pour le quiz, et entre-temps, on a eu une petite réponse de Denis Arsenault qui dit « On va coucher dans la chambre à Laval avec l'équipement qui sèche, on refait le stock pour Sorel le lendemain, on aime ça. » On aime ça, le hockey.
J'ai deux petits quiz à soir, les boys, deux petits quiz, puis là, on va voir si David connaît il connaît son club, les Éperviers, parce que le quiz va sur... Il y a du monde de Rivière-du-Loup qui pourrait savoir la réponse parce que ce joueur-là a joué à Rivière-du-Loup. Il a joué à Thetford aussi, le monde de Thetford. Mais il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons à Sorel. Je cherche un gars drafté en 1994 par les Nordiques de Québec. A joué pour les Citadelles de Québec, les Rafales de Québec dans la IHL. A joué pour les Olympiques de Gatineau, les Olympiques de Hull dans le temps. A gagné la Coupe Memorial. A joué pour les Royaux de Sorel, le Mission de Sorel, Thetford Mine, Rivière-du-Loup, l'Isothermique, puis il est revenu finir ça avec le Carvana là, de HC.
Sa dernière saison, c'était-tu 2011-2012 ou 2012-2013?
Il a joué 2012-2013. Là, si vous allez sur Elite Prospect, c'est facile, mais oui, il a joué 2012-2013.
C'est okay. Félix Dallaire dans le chat qui dit Stephen Lowe, François Vassar.
Stephen Lowe. Et la bonne réponse, Stephen Lowe. C'est un gars, quand même, ça je t'ai dit, il a été drafté par les Nordiques de Québec en 11e ronde en 94. C'est un petit gars de Montréal. Et la deuxième était un petit peu plus difficile.
Stephen Lowe, c'est un des gars qui a ramené le club à Sorel quand ils sont revenus en 2010. Là. C'est okay. Il faisait partie du groupe de propriétaires, de ceux qui ont ramené le club à Sorel.
Et la prochaine question, attachez vos tucs, on va voir les vrais connaisseurs. Elle pourrait être facile parce qu'il n'y en a pas eu 12 dans la ligue. Nommez-moi le seul joueur de l'histoire à avoir joué dans la Ligue nord-américaine né à Kobe au Japon.
Hé, hey, tabarouette.
Oh, astique.
Il a joué avec Sorel. Il est le seul marqueur japonais de la Ligue. Il a
joué 11 games, un nom. But.
Ça fait longtemps, là,
pas, pas tant longtemps que ça. On parle dans les années 2000 ici, là. Mm. Il est vraiment né au Japon. Là. On va voir les vrais connaisseurs. François Bellefleur, il est là. Il doit le savoir, François. Ça fait des années qu'il suit la Ligue.
C'est sûr. Le monde, il y a personne qui répond. Là. Soit que la question est bonne, soit qu'ils sont en train de chercher sur elle.
C'est ça. Le gars a joué une saison. Il a joué une saison. Non. Evgeny Nislavkov, là, c'était pas un...
Novislamov,
c'est un russe. Elle est, je pense que là, je vous ai, là.
Là, je vais aller chercher sur...
Il est le seul marqueur japonais.
Des années 2010.
Pas 2010, 2000... avant ça. Il a joué 11 games pour le Sorel Tracy Mission. Après ça, il est parti jouer à Nikko Icebuck dans la Asian League.
Ah, fait que non, sûrement connotation...
Le gars, il y a un autre japonais, là, je veux dire. C'est pas un Québécois, il n'est pas né ici. Mais il a joué, c'est parce qu'il a joué dans SPHL à Asheville puis à Winston. Il a joué aux États-Unis, puis je pense que... non, c'était pas en 2007-2008, mais t'es pas loin, François. D'après moi, vous allez chercher longtemps, là. Je peux le dire, si vous voulez, là. Je suis même pas sûr que je suis capable de le prononcer. Il faudrait peut-être que je l'écris, là.
Il y a un nom vraiment japonais.
Ah, il y a vraiment un nom japonais, là. Ah. Je veux dire, il... Le gars, il a 40 ans.
En ce moment. Ah, attends, on a une réponse, là, Martin Louvic.
Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est ça, mais ça se peut qu'il l'écrit comme ça. Il faudrait que je regarde la translate à Google. Il a le nom de famille, il s'appelait Nobumasa Kinugasa. Ça doit être dans l'incolonance. Nobumasa Kinugasa. Il a joué en 2005-2006 avec la mission de Sorel Tracy, 11 games, 1 but. 6 minutes de punition. Et c'est. Fait que pour ceux qui se demandaient, on est une ligue all around the world, comme Bob Pilaton il dirait.
Worldwide.
Fait que. Elle
était vraiment bonne, celle-là.
Nobumasa Kinugasa.
Parce que j'aimerais savoir comment ça s'est ramassé dans SPHL aussi. Là.
Ben, ça, je sais pas. Ça après l'avoir en interview, tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui a une longue distance pour appeler à Kobe au Japon? Ça va, on pourrait l'avoir.
Peut-être c'est là qu'il y a un interprète, peut-être. Peut-être un interprète.
Ça. Je vais vous expliquer là, pour le monde qui demande comment j'ai trouvé ça. Dans le fond, je suis allé sur Elite Prospect. Tu vas dans la Ligue nord-américaine, puis tu vas comme dans nationalité de tous les joueurs de tous les temps. Tu sais, puis tu gardes nationalité. Puis tu sais, il y a quand même eu des Ukrainiens. Il y a eu 3 Ukrainiens, 3 Français. Il y en a eu un peu de partout, mais là j'avais vu un japonais, je trouvais ça quand même assez incroyable. J'ai dit je vais y aller avec un japonais, il y en a eu juste un, on va voir. Puis là je me suis dit Sorel en plus, peut-être que David il va le savoir, mais c'est un tough.
Je me rappelais qu'il y avait un japonais qui avait joué, mais je me rappelais plus de son nom.
Fait que ça clore mon quiz. Je vous reviens encore plus fort la semaine prochaine.
Wow, c'était bon ça. C'était bon.
Appelez-moi Fern. Appelez-moi Fern.
Donc, merci pour ce bon quiz, le TIF. Merci les boys. Encore une fois, une bonne émission. Encore beaucoup de monde là, qui ont été fidèles au rendez-vous cette semaine, malgré quand même un match canadien de Montréal.
Ouais.
Faut dire que c'est quand même... il y a des bons fans là, dans la Ligue nord-américaine, des fans fidèles.
Là. Yes, ben tu sais, c'est quand même assez... C'est quand même, comme tu dis, là, c'est quand même assez impressionnant. Là, je veux dire, on a été quasiment dans le 100, 110, 115 au début avec Alex et Yann-Joseph. Ouais. Canadien en plus qui mène 3-0 avec 2 minutes à faire. Tabarouette, on ne gagne pas souvent, puis le monde a manqué une victoire du Canadien. C'est ça qui est assez impressionnant. Là, fait que, on a le monde, c'est des vrais fans, puis sérieusement, c'est la raison pourquoi qu'on fait ça, puis pourquoi je me suis impliqué dans ce projet-là. C'est comme eux autres, je prends ça à cœur au bout de la ligne, puis moi aussi, j'aime la ligue, comme que Dave, Seb aussi, tu as commencé à apprécier la ligue quand on a commencé à parler avec le... Ben, tu étais un fan de Verdun dans le temps aussi, je me souviens de ça. Mais je remercie le monde. Je remercie le monde d'avoir pris. C'est vrai, il y a la série mondiale en plus, ça soit Atlanta, Houston. Merci au monde qui ont pris quand même le temps de nous écouter ce soir, c'est vraiment apprécié.
Yes. Donc, partagez en grand nombre. On veut que la gang grandisse. Là. Parlez-en là, à votre mari, à votre beau-frère, etc. Donc,
le voisin.
Yes. Exact. Donc, merci, messieurs, et merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Donc, on continue là, ce rendez-vous-là, là, chaque mardi 20h, la source LNH, le balado de la Ligue nord-américaine. Bonsoir.
Bon, t'as bugué encore. T'as bugué encore ou c'est moi qui ai bugué?
Non, c'est
pas bugué.
Ciao, ciao tout le monde. Ciao, merci tout le monde. Merci.